Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 novembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 11, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ça répond pas très fort, il n'y a pas beaucoup d'amages de la Résistance dans la bande.
Bonsoir.
On est plutôt accablés.
Ça va, Victoria?
Oui, oui, très bien.
Bon.
Je résiste.
C'est stable d'une aristocratie, ce soir, je vous dis. On a un marquis, un baron, et je ne parle pas du reste. Baron de Villoutray.
Par exemple.
Marquis d'Olmeta. Laurent Glouzy, non
Et une impératrice.
Une impératrice, bah oui,
ah
bien
bah
sûr.
Oui, quand même. Hein.
Et puis Laurent Glouzy, qui non, un roturier, c'est un peu
voilà.
Pas méchant, mais enfin bon.
Ne changez rien.
Ce soir, donc, Laurent Glouzy nous présentera un article qu'il a fait, pas un article, un dossier. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria?
C'est votre lampe, je voudrais que vous la baissiez, monsieur.
Je la baisse. Ah, parce que
ah,
j'ai.
Ah, merci.
J'ai squatté, c'est, je vais me faire une guirlandais. J'ai volé une lampe que j'ai posée sur le bureau, et alors
ça éblouit.
Ça brûle les yeux de Vivi.
Oui.
Donc je disais, Laurent Glouzy, qui a réalisé un dossier pour le Libre Journal, va nous en parler. Ça permettra de faire un peu de publicité pour le Libre Journal. Mais non, c'est surtout que le dossier est très intéressant.
Remarquable.
Et puis, normalement, nous aurons ensuite le docteur François Plantet et le docteur Véronique Aster. Mais je suis un petit peu inquiet parce que je crains fort qu'il y ait eu un malentendu quant à la durée de l'émission. Alors, s'ils arrivent à 7h30... Eh bien, ils seront à la porte, puisque à partir de 7h30, vous aurez le bonheur délicat d'entendre les jeunes Européens parler de la vieille Europe. Adieu, vieille Europe. Que le diable t'emporte.
C'est quelques jours.
Et pour commencer, Patrick Goffman au téléphone. Bonsoir Patrick, comment allez-vous?
Je vais très bien, Serge, je vous remercie. Et j'ai du mérite, parce que j'ai continué à fêter sans vous le bouclage du Libre Journal 335 jusqu'à pas d'heure.
Écoutez, votre vie intime ne nous regarde pas. Est-ce que vous avez quand même eu la possibilité de garder le souvenir de ce qu'il y a dans cet excellent numéro?
J'ai préféré le noter, hein. J'ai 5 lignes devant moi.
Vous allez arriver à les lire?
Oui, il s'agit vraiment d'un numéro spécial, mais bon, vous m'avez coupé mes effets parce que vous avez dit ce qu'il y avait spécial, c'est-à-dire qu'un tiers du journal, soit 8 pages, est consacré à un dossier extrêmement dense, extrêmement documenté, vous allez en reparler avec votre invité Laurent Blancy, sur la tentative de syncrétisme mondialiste, c'est-à-dire de création d'une espèce de monstre de Frankenstein, de religion mondiale. Alors je dirais seulement, puisque l'auteur est dans votre studio, que l'iconographie de ce dossier est signée Serge de Beketch et que vos collaborateurs vous ont regardé non sans un malin plaisir, sué sang et eau sur cette iconographie, ces illustrations. Mais ça en valait la peine puisque moi j'ai en tête en particulier une photographie de Madame Blair, la femme du premier Britannique, qui fait un rictus absolument extraordinaire. Elle qui se présente comme catholique entre une espèce de sorcier et une réformatrice du judaïsme avec lesquelles elle va nous offrir sur un plateau une religion mondiale, mais je vous laisse développer ce point. C'est un numéro spécial également parce que nous avons trois pages sur la Côte d'Ivoire et nous expliquons un peu mieux, je crois, que nos confrères les événements dramatiques de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je donne un seul exemple, que nous n'avons pas peur. Nous ne nous croyons pas obligés de présenter Bernard-Henri Lévy comme un philosophe, comme la plupart de nos confrères. Nous n'avons pas peur de dire qu'il est actionnaire à 65% d'une société qui a abattu 90% de la forêt tropicale en Côte d'Ivoire. C'est un des éléments, ce pillage est un des éléments de la situation. Nous en citons d'autres que nos confrères gardent sous boisseau. En couverture, nous avons mis la photo d'un lecteur du Libre Journal. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jean Raspail qui vient de recueillir le prix d'Audet de Radio Courtoisie, bon, vous en reparlerez sans doute aussi, et qui pose avec le Libre Journal à la main, ce qui est très flatteur, très agréable pour nous comme pour nos lecteurs. Et puis je signale, je peux pas faire tout le sommaire, hein, parce qu'on a quand même 24 pages, je signale quand même une masse d'informations très très précises sur, j'allais dire, le divorce antiraciste, toute la presse en a parlé, hein, de ce clash, de ces affrontements qu'il y a entre les antiracistes judéophobes et les antiracistes arabophobes qui se réconciliaient tous dans le racisme anti-français jusqu'à maintenant et qui ont non pas un conflit mais des conflits multiples que nous essayons de suivre dans le détail parce que ça devient de plus en plus compliqué, de plus
mais
en plus
rigolo.
Ah oui, c'est
mais rigolo.
Oui. Comment ne pas rire de cette bataille de chiffonnier, même si elle est un peu compliquée à suivre. Nous essayons de la suivre pour nos lecteurs en détail. Voilà, je peux pas tout citer malheureusement. Nous avons évidemment toujours la signature historique de François Brignot. Le divin marquis est toujours là avec sa chronique mondaine mordante, la plus mordante, la plus spirituelle de la presse française d'après moi. Et donc tout ça, c'est comme tous les 10 jours, donc 3 fois par mois sur 24 pages.
Vous savez qu'il a une vie mondaine incroyable, parce qu'il m'a raconté qu'hier soir, en sortant de l'opéra à minuit, il est allé dîner à Bruxelles. Il se bouge pas du coude quand même, le marquis. Hein.
Pendant que je me finissais humblement à la causerie des Lilas.
Voilà, bon, et ben, vous avez encore quelque chose à nous dire ?
Eh ben, si j'ai retenu l'attention, que si j'ai intéressé quelques auditeurs qui veulent se procurer ce numéro 335, ou pourquoi pas s'abonner pour un an, ils peuvent le faire donc en envoyant 5 € ou un carnet de timbre pour donc un spécimen, un numéro, en envoyant 110 €, toujours à la même adresse, au même ordre, SDB, 4 place Franz Liszt, 75-010 Paris. Quant à ça, dont j'aurais seulement un peu chatouillé la curiosité, ben, c'est gratuit pour eux sur notre site internet francecourtoise.info.
Merci mon cher jeune camarade.
Merci à vous tous, je salue profondément tous vos invités.
Dis bonjour à la dame.
Voilà. Je salue toutes les dames qui nous écoutent dans le monde entier et au-delà.
Bonsoir Patrick.
Salut.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria ?
Que je n'étais pas encore au-delà, mais que ça venait très vite.
Oh, mon petit, oh là là. Bien, alors, donc j'apprends là par un message express qui nous est apporté par un cavalier puissamment monté que le docteur Plantet ne pourra pas se joindre à nous. Donc, j'en suis navré, mais nous le recevrons parce que le sujet que nous devions traiter ce soir est un sujet extrêmement important. Il s'agit de la mise sur le marché d'un médicament qui n'a pas encore fait la preuve qu'il était bon, mais qui a largement fait la preuve qu'il était mauvais, puisqu'il y a déjà plusieurs milliers de morts.
Mais, lequel?
Ah bah, écoutez, je laisserai aux auditeurs. Alors, c'est simplement, si vous avez du cholestérol, faites très attention à ce que vous prenez, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. C'est enfin plusieurs milliers de morts dans le monde. Hein. En France, il n'y en a que 30. C'est déjà beaucoup quand même, il faut bien reconnaître. C'est le Lancet a publié un article en disant on ne sait pas si le castor est vraiment à la hauteur de sa réputation, mais ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il a des effets secondaires qui sont pour le moins curieux. Hein. Normalement, un médicament, c'est pas fait pour ça. Hein, sauf erreur de ma part, vraiment. Voilà. Vous n'avez pas de cholestérol, Baron ?
Non, j'ai pas de cholestérol, mais...
C'est une des rares choses que je n'ai pas.
Voilà.
Les travaux se poursuivent.
Mais je sais qu'il y a souvent des effets secondaires.
Ah oui, là, c'est quand même... C'est même bien que secondaire, c'est carrément...
Ah, pour définitif.
Voilà, donc on parlera de ça plus longuement une prochaine fois. C'est-à-dire que, bon, il ne s'agit pas d'un seul médicament, il s'agit surtout de parler de ce système extraordinaire qui, pour des raisons purement financières, puisque le produit en question représente un marché de 260 millions de dollars pour l'instant, et il n'en est qu'à ses débuts, pour des raisons purement financières, permet de mettre en circulation des produits dont on sait qu'ils sont dangereux. D'ailleurs, on a entendu un imbécile récemment, qui est ministre, vous me direz, c'est pas une précision suffisante pour savoir de qui on parle. Et on a entendu dire que un médicament qui n'avait pas d'effet secondaire nocif ne pouvait pas être efficace.
Oh.
Ah oui, texto. Alors, donc, ces médicaments-là ont le droit de circuler, de tuer les gens éventuellement, mais quand Beljanski, quand le Ribot lance quelque chose, alors là, tout le monde au créneau, parce qu'il faut surtout les empêcher de guérir, un motif qui ne tue pas. Et par conséquent, comme disait l'autre imbécile, si ça ne tue pas, ça ne peut pas être bon. Voilà. Quand c'est bon, c'est toujours mauvais, et quand c'est mauvais, ça risque d'être bon.
Hein ?
Bien, l'actualité, ben, Patrick Goffman vous en a parlé rapidement. À propos de la Côte d'Ivoire, effectivement, on publie un papier. Il ne faut pas se laisser monter la tête dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit ni plus ni moins d'une bataille de gangs mafieux. C'est pas autre chose. La Côte d'Ivoire, c'est un peu comme New York ou Chicago à la grande époque. Et la France, Chirac et Gbagbo, c'est un peu comme Frank Nitti et Al Capone. Ils essayent de se partager le territoire. Et c'est à celui qui flinguera l'autre pour piquer... parce que jusqu'à présent, il y en avait un qui avait des blanchisseries, l'autre qui avait les speakeasy, un troisième qui avait les filles dans la rue, et le quatrième avait les salles de jeu. Et puis, il y en a qui essayent de barboter ceci et l'autre. Alors, quand c'était avec Oufouet Boigny, c'était très bien, parce que Oufouet Boigny payait tout le monde. Et donc, il n'y avait pas de raison de l'embêter. La racaille gaulienne l'avait mis en place pour surveiller le trésor du gang. Et il était très généreux, surtout pour lui-même d'ailleurs. C'est phénoménal. Vous vous rendez compte qu'il semblerait qu'il ait mis de côté... Avec les euros, je ne sais plus. C'est 50 milliards de francs... Enfin, 50 milliards, non. 500 millions de francs.
Oui, mais ça lui a permis de construire une cathédrale.
Il a passé une belle cathédrale, ouais. C'est vrai. Mais à mon avis, il a dû partager pas mal. Donc il a fait preuve de générosité. Et ça continuait jusqu'à... Mais Gbagbo, il n'a plus de sous. Donc il garde le peu qu'il a, il veut le garder pour lui, on le comprend ce pauvre homme. Le Gbagbo cool. Donc il n'arrose plus. Alors quand on n'arrose plus, ça va mal. Et donc le chef de la mafia de l'autre famille envoie ses hommes, ses porte-flingues, remettre de l'ordre dans la boutique en leur faisant croire qu'ils accomplissent une mission humanitaire, bien sûr. Parce que maintenant, vous savez que l'armée est faite pour remplir des missions humanitaires.
Bon.
Et là, ça a foiré leur histoire, parce qu'il y a 9 morts. C'est d'une gravité extraordinaire. Et bon, parce que, bon, déjà, des militaires qui meurent, c'est quand même, d'une certaine manière, dans l'ordre des choses. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'ils sont morts pour ça. Pour protéger les intérêts de gangsters,
ça
purement
fait
et simplement.
Pour la France,
voilà.
Pas les intérêts.
Alors, on racontera à leurs familles qui sont morts pour la France, et je suis bien désolé de leur dire que c'est pas vrai. D'autre part, c'est une affaire qui est absolument scandaleuse parce que on sent qu'il n'y a absolument aucun contrôle de cette histoire. Hier, on nous a montré le patron de l'opération Licorne qui est venu à la télévision ivoirienne pour expliquer qu'il n'était pas là pour détrôner Gbagbo, et qu'il était là pour assurer l'ordre. On voit d'ailleurs pas en quoi l'armée française a quoi que ce soit à foutre pour assurer l'ordre. Quand c'est un débat démocratique, comme ils disent, entre les bagboïstes et les anti-bagboïstes, on s'en fout qu'ils s'entretuent. Ils sont déjà tellement nombreux. Mais, donc il a dit ça, il a dit on n'est pas là pour descendre Bagbo, mais pour couler Bagbo, mais pour en mettre de l'ordre. Et il n'est pas question, ça c'était hier soir, hein, il n'est absolument pas question d'envisager une évacuation des Français. Et ce matin, j'allume la radio, la première chose que j'entends, c'est que le gouvernement, hier soir, a fait un décret pour se réserver la possibilité de réquisitionner les avions et les équipages des avions pour évacuer justement les 17 000 Français qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc, où ces gens-là sont des abrutis complets, je parle de Chirac et sa bande, qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, et qui à deux heures près ne savent pas ce qu'ils vont décider, ou alors ce sont des menteurs qui nous mentent, et moi je crois que c'est les deux, ce sont des abrutis qui nous mentent. Mais enfin, c'est effrayant, avec une complicité de la presse qui fait semblant de nous expliquer les intérêts en jeu, la défense de la démocratie, la souveraineté africaine, et j'ai vu quand même, c'était parce que, il faut dire avec les Africains, il y a toujours une dimension comique. Moi, je sais pas, ils me font rire. Je sais pas pourquoi. Enfin, chez eux, hein. En France, beaucoup moins. Mais en France, là-bas, oui. Et alors, j'ai vu, il y en avait un qui brandissait une pancarte sur laquelle il avait écrit Français. Sans la Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien.
Ah, oui. C'est géant,
ça. C'est bon, si vous voulez. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Donc la Côte d'Ivoire, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et je constate que, depuis le temps que je disais du mal des Pays-Bas, en disant c'est des lopettes, les gens des Pays-Bas, ils n'ont aucun ressort, ils se laissent bouffer, ils se laissent entraîner à toutes les abjections les plus répugnantes. Eh bien, je me commence à me dire que finalement, tata, c'est pas si mal que ça, les Pays-Bas. En tout cas, oui, vous connaissez bien, vous, Laurent Glosi, les Pays-Bas.
Oui, tout à fait.
Vous parlez leur langue, en plus, pas leur langue.
Je parle néerlandais, donc.
Oui,
le bâtard. Non, j'ai accès, effectivement, à la presse néerlandaise. Et, quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois. C'est tout à fait intéressant. Bon, je m'étais intéressé effectivement à l'extrême droite. À l'époque, c'était Yann Mat, dans la seconde chambre, où il avait quelque chose comme deux ou trois représentants, ce qui n'était pas grand-chose, hein, pour un pays qui avait pris, je dirais, la voix de Yann Mat pour 1 ou 2%. À l'époque, la France était, avec Jean-Marie Le Pen, le parti qui faisait école, je dirais, en Europe, hein, puisqu'il n'y avait pas encore Jörg Haider en Autriche ou autre. Et les Hollandais, à cette époque-là, voyaient vraiment d'un très mauvais œil ce qui se passait en France. Donc Yann Mat était à 1-2%, il n'avait pas des scores très, très élogieux. Et ensuite, il y a eu cette fameuse histoire qui a été un déclic, avec Pim Fortuyn. Personne n'a senti le coup venir. Il avait pourtant, je dirais, un logo assez spécial, puisqu'il avait marqué Nederland Leefbaar, hein, la Hollande vivable. Mais c'était tout à fait dans un style assez déplaisant pour certains, parce que ça reprenait le drapeau d'une certaine époque en Allemagne. Ouais. Hein, donc c'était entouré de rouge dans un cercle blanc, et en noir il était écrit Nederland Leefbaar.
C'est affreux ce que vous nous dites là.
Ah oui, mais pourtant ça n'a pas empêché de faire des très hauts scores, et à l'heure actuelle, d'après les informations que j'en ai...
Les heures tout ça, quoi.
Comment ?
Les heures les plus sombres et toutes ces sortes de choses.
Oui, mais bon, c'était... et c'est tout à fait intéressant de voir, par exemple, lorsqu'il a été... lorsqu'il est décédé, effectivement, il y avait des Surinamiens, des gens de toutes les couleurs qui étaient là pour honorer sa disparition, en quelque sorte.
Mais ce qui est curieux, quand même, c'est que les Hollandais, enfin les habitants des Pays-Bas, que je prenais vraiment pour des ramolos, visiblement, ils n'aiment pas qu'on les tue, quoi. Hein ? Ils n'ont pas aimé qu'on leur tue Théo Van Gogh. Nous, en France, on peut tuer absolument n'importe qui, tout le monde s'en fout, sauf un ours. Ça, attention, il ne faut pas tuer les ours. Hein. Donc voilà, si je ne pars pas au Tibet, je pense que je vais me replier sur les Pays-Bas. À propos d'ours, ça quand même, je voulais en dire un petit mot rapidement parce que il n'y a pas eu de tragédie pire en France depuis la mort de l'ours Canel. On l'appelle Canel. Hein, voilà. Alors, non mais vous pourriez chanter avec moi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, on a un auditeur, j'ai un auditeur qui nous a envoyé un petit mot qui est très court et très drôle, il dit... si ça avait été le chauffeur qui a été tué, on n'aurait pas déplacé un ministre. C'est vrai qu'il y a plus de chasseurs que d'ours en France, mais enfin, si les ministres se déplacent pour les animaux, maintenant ils vont avoir du travail. Il faut qu'ils aillent dans les élevages de poules, par exemple. Là, ils verront ce que c'est que la souffrance animale. Hein? Non, mais je blague pas. Ou les élevages de porcs. Alors, tout ça, il y a quand même une formidable hypocrisie. Parce que bon, qu'on ait tué une ours, c'est vraiment pas malin. Alors là, je dois dire, moi, les chasseurs, enfin, certains chasseurs sont quand même pas très fut-fut. Parce que, je sais pas, il a cru quoi? Que c'était un sanglier? Un lapin, un gros lapin? Non, mais enfin, c'est invraisemblable. Bon, alors, il l'a tué. C'est triste d'avoir tué un ours, surtout une. Mais c'est vrai que la souffrance animale, c'est une réalité quotidienne. Il n'y a pas très très longtemps, je suis passé à côté d'un élevage de pintades. Il y a une double souffrance, il y a la souffrance des pintades et la souffrance des voisins. Parce que je peux dire, quand vous êtes voisin d'un élevage de pintades, vous passez des nuits plutôt agitées. Hein. Eh bien là, ça ne gêne personne. Il n'y a pas un ministre qui fait un communiqué, il y a des lois qui ne sont jamais appliquées, etc. Mais une ours, alors là, c'était le branle-bas de combat. Il paraît que même Chirac a envoyé des condoléances à... Je ne sais pas à qui, d'ailleurs, probablement au mari de l'ours. Il devait bien avoir un mari, puisqu'il avait un ourson. Enfin, voilà. Je me demande si on n'est pas un peu dans un pays de cinglés. Hein.
Bon.
Non ?
Si, je crois.
Si, vous croyez aussi. Voilà.
Un pays de folie.
Mais, heureusement, on a des auditeurs qui ont le sens des hiérarchies et des priorités. Alors, je vais vous lire une petite lettre d'auditeurs que je viens de recevoir. Monsieur de Becketch, dans votre émission du 7 octobre, on vous a entendu dire, de pauvres les guillemets, les prières d'enfants, ça booste. Avec deux os. On a aussi entendu Patrick Goffman sur l'éventualité de top au top du FN. Il est entendu qu'entre journalistes, ça pose. Ce sont autant de certificats indispensables dans la corporation de dessalement. Seulement, par accumulation, il n'est pas sûr que vous fassiez un placement auprès des non-journalistes, disons ceux qui vous font vivre, en qui vous risquez d'infuser le contraire de la sidération. Quand, dans l'orangeade, le poison devient manifeste, il faut parfois faire des choix un peu douloureux d'émission, de lecture, de fréquentation, de louange. Alors, irez-vous sur la côte ouest-ouest? Vous en avez mentionné récemment le premier, l'éventualité, mais sans préciser la côte. Alors, je voudrais répondre à M. DLF, parce que ça, c'est toujours des lettres anonymes dont signé, hein. Non. Mais celle-là, je l'ai trouvée drôle, donc je réponds quand même. Vous avez raison de faire une telle place... aux questions de langage, parce que c'est absolument capital, vous comprenez. La langue française, comme on en a parlé d'ailleurs dimanche dernier, au cours du déjeuner, la langue française, il faut surtout pas la toucher, il faut la mettre dans un globe, sous verre, il faut l'admirer, il faut tous les matins passer au minimum ces imparfaits du subjonctif, parce que des fois qu'il rouille, c'est embêtant. Donc surtout, et puis touchez rien, hein, ne touchez rien, n'ajoutez surtout pas un mot. Quand il y a un mot qui fait mouche, un mot qui est drôle, un mot qui exprime quelque chose, ne le prenez surtout pas, parce que ça porterait atteinte à notre belle langue française qui n'a pas bougé depuis qu'elle est née, depuis qu'il y a, je sais pas comment ça s'est passé, Adam probablement le premier à parler français, et depuis il faut surtout toucher à rien. Bon, en plus c'est capital. Dans un pays où il y a par exemple par an 250 000 avortements, c'est quand même très très important de protéger la langue française et d'interdire aux gens de dire booster au lieu de dire
accélérer,
animer, dynamiser. Non, même dynamiser, c'est à mon avis. Oh là là, dynamiser, ça doit être une cochonnerie moldovalac. Alors, attention. Et puis alors, ça c'est une chose. Et alors, une autre chose que je voulais dire, vous dites, cher monsieur, avec cette élégance que je salue, vous dites, il n'est pas sûr que vous fassiez un placement auprès des non-journalistes, disons ceux qui vous font vivre.
Oui, ça, alors,
mais, monsieur, je voudrais vous dire une chose. Si je vis, je dirais plutôt, si je survis, c'est très certainement pas grâce à vous. Et en tout cas, c'est très certainement pas grâce au salaire
mirobolant
de la radio. Que me verse la radio. Je rappelle, parce que ça paraît... Je crois que les auditeurs ne le croient pas, en réalité. Donc j'insiste bien là-dessus. Parce que ça me paraît quand même nécessaire. Il n'y a pas un seul collaborateur de micro de la radio qui touche un centime sur cette radio. Jamais. Quand nous faisons des frais, nous les payons de notre poche. Et il m'est arrivé, à moi qui vous cause, c'est bien en français ça,
hein, de payer...
Il m'est arrivé de rembourser de ma poche, avec mes sous à moi personnellement que je gagne par mon travail à moi, le déplacement de certains invités que j'ai fait venir, parce que je pensais qu'ils avaient des choses intéressantes à dire. Donc ne me brandissez pas cet argument, parce que ça me donne des démangeaisons dans le pied droit. Ça provoque une espèce de tropisme avec votre fesse gauche qui pourrait avoir des suites désastreuses.
Entre nous, moi j'aimerais bien être nourri par monsieur parce qu'on serait peut-être plus svelte.
Oui, c'est le problème. Ça, c'est sûr que si c'est son argent qui me faisait bouffer, genre, je ne ferais pas 110 kilos. Voilà, toutes ces bêtises étant dites, nous allons passer aux choses sérieuses. Et, mais d'abord, je voudrais que Franck... enfin non, on entre tout de suite dans les choses sérieuses. Je voudrais que Franck nous fasse écouter un petit chant choral que j'ai dégoté dans ma discothèque personnelle et dont je fais hommage, si j'ose dire, à nos camarades arrière-grand-père, grand-père et père qui sont tombés dans les tranchées en 14-18.
Pas une année que dans les tranchées, nos petits soldats de tout le monde sont là-bas, dans la bataille, livrant la mitraille, ils ne plus à rien. Et quand ils sont au haut et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur l'eau. À nos poils, ils sont sur front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur faut des gentiments, passer un sac des bons moments? Une femme, une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour dire un moment dans leur bras? Une femme, quand Marie Mambelle, il ouvre la gamelle, c'est avalé, en deux temps ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allongé il baille, se tournant de nom, presque tous à la réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas. À nos bois, les puissants se font, qu'est-ce qu'il en faut comme distraction? Une femme, quand ils ont bouffé leur bataille, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, une femme, une femme, qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit une femme, une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée, par un petit créneau, ils envoient au rejet plus haut, puis ils se reposent, pensent à des tas de choses, qui leur font créneau, passer dans tout corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poils, les puissants se font, qu'est-ce qu'il en faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire leur plaisir. Une femme, une femme. Une femme, une femme. Et comme prière du soir, ils disent mon Dieu, fais-nous ton quoi. Une femme, une femme.
Le blanc, c'est de ma faute, hein. C'est parce que j'ai dérangé Franck juste au moment où le disque se terminait. Alors, c'est un disque DDD, enregistrement, mixage, montage numérique, tout, enfin, tout ça, je sais pas, interprété par la musique de la CMD de Rennes sous la direction du chef de musique militaire principal René Vartel. Eh oui.
Bon, ben, c'est bon.
Enregistrement réalisé à l'église, en plus, de Louteuil le 20 et 21 juillet 98. Ça s'appelle Promotion Grande Guerre et c'est plein de jolies choses. Il y a un historique de l'EMIA, la prière, Sari Marès, le Grand Bossu, le Dolo Cornu, l'hymne à Marceau, la sonnerie aux morts, les épimures. Très beau, les épimures, c'est un poème de Peggy, magnifique. Chant de promotion, le cri du poilu, qu'on vient d'entendre. La Madelon, Verdun, on ne passe pas. Régiment de Sambre-et-Meuse, la Madelon de la Victoire, le Père de la Victoire et pour le souvenir français. Excellent disque, je le recommande et je ne le prête pas. Je vous dis tout de suite parce que disque prêté, disque perdu.
Comme Baron, les livres, vous voulez que je vous lise des petits messages?
Ah oui, oui, des messages, oui.
Pardon. Alors, avez-vous entendu parler, c'est d'abord les faits divers, hein. Avez-vous entendu parler de l'assassinat d'un prêtre dans le 14e arrondissement,
oui.
Rue du Père Corentin, il y a deux jours? Il y a eu un article dans Le Parisien.
Il a été étranglé par un SDF à qui il ne voulait que du bien.
Semble-t-il.
Voilà,
il y a une religieuse qui a été assassinée aussi la nuit dernière. Toujours la même chose, qui s'occupait de sans-abri.
Un bar a été fermé à Boulogne parce qu'on y avait servi de l'alcool et dans le même temps, à Clichy, le maire autorise les débits de boissons à fermer plus tard pour cause de Ramadan. Quand on vous dit qu'on est déjà en République islamique,
ben on le sait.
Un auditeur.
Oui.
Au sujet de la déchristianisation du monde, je crois de plus en plus que la tradition catholique libre non romaine ne donne plus envie d'être missionnaire. Et que faire dans ce cas-là?
Ben, vous savez, je crois que bientôt, c'est nous qui allons recevoir des missionnaires d'Afrique. Pour l'instant, ils envoient les hommes, après ils enverront des curés. Mais je crois qu'on va finir par être réévangélisés par les Africains, par des prêtres venus d'Afrique. Oui. C'est les derniers qui portent la soutane.
J'étais au Barcarès il y a peu de temps, le curé est parti à la retraite, il a été remplacé par un prêtre qui venait du Burkina Faso.
Voilà.
Je suis une veuse, un petit patelin autour de Toulouse, et ben c'est la même chose.
C'est de plus en plus en France. Hein.
Alors la question pratique, combien faudrait-il d'auditeurs ou d'euros pour avoir un émetteur à Marseille? Cet auditeur nous dit, je dois partir là-bas et ça me désole de ne plus pouvoir entendre Radio Courtoisie.
Alors monsieur, d'abord, ça c'est une question qu'il faut poser à Jean Ferré. D'autre part, si vous voulez avoir la gentillesse de m'envoyer un petit mot, 4 places France Litz, pour me dire comment puis-je écouter Radio Courtoisie à Marseille, je me ferai un immense plaisir de vous répondre pour vous en donner un moyen économique et pratique. 4 places France 10, vous écrivez monsieur de Bekech, même monsieur si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Bekech, 4 places France 10, 75-010 Paris. Comment puis-je écouter Radio Courtoisie à Marseille? Réponse par retour.
Et l'auditrice.
Ah oui, prenez pas cet air étonné, Baron, j'ai pas l'habitude de faire des promesses en l'air.
Mais c'est pas un air étonné, c'est un air interrogatif.
Ah bah, vous avez qu'à écrire 4 places France 10,
j'écrive alors.
Voilà, exactement.
Une auditrice n'arrive pas à avoir le livre du docteur Pourtalet chez son libraire. Est-ce que vous savez où on peut le commander? Mais on peut non seulement le commander, mais le faire signer à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Alors, le docteur Georges Pourtalet dédicacera, il reviendra dédicacer Le corps à ses raisons que la médecine ignore, samedi prochain, 13 novembre. De 15h30 à 18h30.
Il avait déjà dédicacé le 6, non?
Oui, mais il a rebeloté. Il va rebeloter. Et en même temps...
Tu vois un pourcentage.
On en fait un fromage de cette histoire-là.
En même temps, M. l'abbé Claude Barthes dédicacera, lui, Quel chemin pour l'Église.
Oh, dites donc, alors là, oh là là.
6 rue l'abbé
Claude Barthes.
6 rue du Petit Pont, Paris 5.
Oh, je connais un plompon qui
était samedi dernier, ça.
Non.
La dédicace de l'abbé Claude Barthes.
Mais il revient aussi.
Mais samedi prochain, 13
novembre. Ça recommence.
Il recommence.
Monsieur l'abbé Claude Barthes.
Je fais une insiste pour dire à la directrice du Libre Journal qui nous écoute que c'est ce soir monsieur De Bekech qui lui ramènera les photocopies de toutes les annonces, parce que moi je quitte le studio à 19h20. Donc bonne soirée.
C'est pas un téléphone portable la radio, je vous dis.
Non mais parce que je veux pas avoir d'histoire avec ma directrice.
Pendant que je suis dans les annonces, je les fais toutes. Hein. Il y en a.
Absolument.
Le Cercle National des Combattants vous prie d'assister à la messe solennelle de Requiem qui sera célébrée le jeudi 11 novembre à 18h30 en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, 23 rue des Bernardins, Paris 5e, à l'intention de tous nos compagnons d'armes morts pour la France. Et puis Duquesne Diffusion organise toute une série de dédicaces, 3 jours. Ouverture exceptionnelle le 11 novembre. Alors, le 11 novembre, il y aura le général Le Groignac.
Et Yves Amiot.
Et Florent Jeuns.
Florent Jeuns, exactement.
Et puis, le vendredi 12, il recommence avec Vladimir Volkov et Pierre de Villemarais. Et le 13, le samedi, Arnaud de Chanterac, Jean Monneret, signeront eux aussi la réplique à l'amiral de Gaulle auquel ils ont collaboré. Et Michel de Poncin signera parole.
Sous la direction d'Henri-Christian Giraud.
Voilà.
Voilà.
Et puis, alors, c'est à France Libre, ça ? Non, à Duquesne.
Non, ça, c'est Duquesne. Là, c'est Duquesne. Et puis alors, un petit peu plus tard, l'arrivée du Beaujolais sera fêtée en chanson. J'allais dire en chanson, c'est mal écrit. L'arrivée du Beaujolais
aussi, d'ailleurs, quoi.
Sera fêtée en chanson avec le chœur Montjoie Saint-Denis chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, le jeudi 18 novembre, à partir de 20h30. Et vous êtes, on vous demande de bien vouloir réserver au 01 43 35 56 64. Voilà.
C'est bien. D'autres messages ?
Est-ce que... Oh, cher Serge, calmez vos démangeaisons du pied droit, car vous risquez de vous retrouver avec un sida du gros orteil.
Oh, c'est élégant.
C'est classe.
L'ourson camel aurait été tué par un chasseur. Sommes-nous bien sûrs que ce n'est pas un attentat politique de l'OTA ?
Ah, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça.
Et Beaumarchais a donné cette définition du champ de bataille. C'est un endroit où des soldats meurent pour des intérêts qu'ils ignorent complètement.
Oui,
alors, à propos de ça, d'ailleurs, pourrons-nous, ce soir, parler de l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire ? Et de ceux qui y sont pour peut-être se faire de l'argent.
Ben, c'était dit tout à l'heure.
Vous l'avez dit.
Non, mais on ne peut pas reprocher aux gens. Moi, je ne reproche pas aux gens d'aller en Côte d'Ivoire ou n'importe où dans le monde pour se faire de l'argent. Je trouve ça normal qu'on ait envie de gagner de l'argent. Ce que je trouve anormal, c'est que on utilise la diplomatie française et au mépris des intérêts de la France pour ça, que ce soit des élus de la République qui fassent ça. Et que, en plus, ils utilisent la force de frappe, la matière humaine, si j'ose dire, et la vie de jeunes soldats français pour défendre des intérêts dans des pays où on n'a absolument rien à faire. La Côte d'Ivoire a pris son indépendance en 62. C'est devenu, c'était une partie de la société, c'est devenu une succursale. Qui se débrouillent, s'ils ont envie de s'entretuer, qui s'entretuent. On n'est pas chargé de maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire, ou alors pourquoi pas aussi au Soudan, et puis à Bobo-Dioulasso, ou Suriname, ou je ne sais où. On s'en fout s'ils veulent s'entretuer. De toute façon, ils font ça depuis 10 000 ans, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas. Nous, on est un peu calmés de ce côté-là. Alors maintenant qu'on n'a plus... On se tue plus en Europe, enfin disons moins. On va aller empêcher les gens de se tuer en Afrique, ils n'ont qu'à faire le même boulot que nous, ils n'ont qu'à réfléchir. Quand ils ont eu 6 millions de morts comme nous en 14-18, ils seront peut-être un peu moins enthousiastes pour ça, aller se friter. Non, tout ça.
Et
moi,
puis ceux qui...
moi, je trouve que je serais absolument. Mais si j'avais un fils qui se battait là, qui est un soldat et qui soit tué en Afrique, je crois que je deviendrais fou furieux. Voilà.
Et puis ceux qui défilent à Paris, ils n'ont qu'à aussi aller voir là-bas, aider là-bas à maintenir
l'ordre.
Écoutez,
on a entendu cette information
extraordinaire.
On a vu 400 Ivoiriens se réunir devant le ministère des Affaires étrangères ou devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, à Paris, pour gueuler armée française hors de Côte d'Ivoire. Mais enfin, dans quel pays on est ? C'est extraordinaire quand même. Enfin, bon, je sais pas, moi. Et puis les gens, ils acceptent ça. Ils trouvent, que je voulais que c'est à peu près normal, quoi. Hein, on va pas qu'en faire une histoire. Voilà. Moi, je t'aurais pris tout ce beau monde par la peau du cul. Je les aurais filé dans un bateau ou dans un avion avec une pale plein. Juste de quoi décoller.
Voilà. Une auditrice nous signale qu'elle a trouvé le livre du docteur Pourtalet aux éditions du Dauphin, rue de la Tombissoire.
Ben, voilà.
Au métro Saint-Jacques.
Étant donné que c'est l'éditeur, la surprise n'est pas grande.
Oui, mais on ne sait jamais, il aurait pu être en rupture de stock.
Ah. C'est tout.
Quand aurez-vous l'occasion de dîner à la mer agitée ? J'aimerais vous offrir un verre à cette occasion, nous dit l'auditeur. Il m'invite aussi par la même occasion, mais moi je ne sors jamais.
Mais pas le soir du Beaujolais, parce que on sait comment ça commence, cette histoire-là, mais on ne sait jamais comment ça finit.
Moi, je ne
sais pas. Bien, on passera à la suite des messages tout à l'heure. Si vous voulez, Victoria, je voudrais donner la parole au baron de Villoutray, qui va nous parler donc d'une grande manifestation, un colloque,
un rassemblement.
Journée, un rassemblement.
Un rassemblement, voilà. Oui. Oui, notre idée, l'objectif de notre journée est de retrouver nos racines. Pardon. Nous constatons, et là-dessus nous n'avons très peu de personnes qui divergent de nous, l'abîme vers lequel nous allons. La catastrophe est en cours. Même Mgr Lustiger a dit récemment, paraît-il, que la société contemporaine danse comparable au Titanic, car elle danse pendant que le bateau coule. C'est-à-dire que l'heure est grave. Et nous pensons que nous devons retrouver notre vocation de fille aînée de l'Église, retrouver nos racines, pour que la France reprenne le chemin du salut. Voilà pourquoi nous avons choisi l'occasion de la fête du Christ-Roi, pour faire allégeance au roi des rois, à celui qui, par l'intermédiaire de Sainte-Jeanne d'Arc, a fait connaître quel était son lieutenant sur Terre, son lieutenant en France. La France est une nation particulière, une nation, j'allais dire, privilégiée. La façon dont elle est née dans les fonts baptismaux de Reims, où le baptême de Clovis, le roi des Francs, 3200 compagnons, la nation franque, est née à ce moment-là. Et Saint-Rémy a fixé la vocation de la France, qui est d'être le bras armé défenseur de l'Église catholique, qui est la seule vraie religion. Il osait dire ça, Saint-Rémy.
Ben, c'est une vérité.
Ben, c'est évident, c'est
une vérité. C'est le saint, d'ailleurs, qui disait la vérité.
Ben oui. Et à chaque fois que cette nation sera fidèle à sa vocation, elle sera prospère, elle rayonnera, et quand elle sera infidèle...
Vous reprendre, ne serait-ce que pour faire bisquer certains auditeurs.
Oui.
Vous n'avez pas le droit de parler de religion catholique à l'époque de Saint-Rémy. La religion chrétienne.
Mmh. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison.
Donc,
il n'y avait pas encore...
Ce n'était pas la religion catholique qui était la seule, c'était la religion chrétienne. Ah ben oui, non mais c'est tout.
C'est-à-dire que les hérésies avaient été éradiquées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Car l'arianisme est avant Saint-Rémy.
Oui, mais ça, l'arianisme, c'est une cochonnerie, c'est tout.
On est bien d'accord.
Tandis que l'orthodoxie, c'est une divergence.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Les protestants, j'en parle pas parce que je veux rester poli. Allez, continuez, Baron.
Bien. Vous m'avez... Oui, alors, donc, à chaque fois que cette nation sera fidèle à sa vocation, elle sera prospère et elle rayonnera, et quand elle sera infidèle, eh bien, elle sera durement châtiée, ce qui est le cas. Alors, nous pensons que le moyen le plus efficace de refaire surface, eh bien, c'est de nous convertir, de mériter la miséricorde du vrai roi de France, de manière à ce qu'il accepte de renouveler la grâce qu'il nous a faite par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc. Parce qu'au bout de 2 siècles, on ne sait plus où on en est. On n'est plus... Voilà. Alors, je considère que c'est un mouvement extrêmement important. Il devrait mobiliser bien plus de personnes que la défense de l'école libre n'en a mobilisé, parce que c'est d'une importance capitale. J'espère que je serai entendu et que le jour de la fête du Christ-Roi, le 21 novembre prochain, le dimanche 21 novembre prochain, nous serons nombreux à Grand-Maison, à Villepreux, où nous organisons cette journée, où après une messe qui rappellera l'objectif de la journée, eh bien, nous écouterons une conférence débat présentée par Maître Trémolet de Villers et Daniel Amiche, et animée par Alexis Arrête.
Ah, bien, disons, c'est du beau monde.
Mais bien sûr, on a choisi.
Très, très bien, parce que Trémolet, moi, chaque fois que je l'écoute, je suis transporté. Vraiment, il est extraordinaire. Notre camarade Arrête est un formidable poète paysan, un homme d'une puissance rare.
Tout à fait.
Et bon, et Daniel, je ne vais pas en commencer à en dire du bien, tout le monde sait que j'en pense énormément. Ben, que c'est un ami, c'est un homme précieux, fidèle, intelligent, amical et acharné à défendre la cause. La vraie cause de la vraie monarchie. Donc, ça peut être une très très belle journée. Ouais.
Ben, nous le souhaitons et c'est. Je crois que c'est l'intérêt de chacun de nos compatriotes.
Il faut s'inscrire où pour ça?
Alors, par courrier ou par téléphone. Alors, par courrier postal adressé à France Royaliste, 14690 Le Beau. Et le plus loin, BO, accent circonflexe. Ou bien au téléphone, au 06 71 02 26 47. Je répète, 06 71 02 26 47. Ou par fax, au 01 39 25 03 02.
Pas de courriel.
Non, il n'y a pas de courriel. Parce
vous savez, les racines, c'est bien, mais les branches, c'est pas bien.
Donc,
un arbre, il faut que ça pousse dans le progrès. Je vous signale qu'il y a un appareil qui s'appelle un ordinateur et ça donne des problèmes.
Mais oui, mais mon ordinateur, j'ai des virus, il y a des virus, ça ne marche pas bien.
Alors, virus, c'est donc, si distribue ce progrès.
Voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas de courriel et je le déplore.
Bien. Merci mon cher Baron.
Je voudrais ajouter encore un mot si vous me le permettez.
Ajoutez donc.
Cette date du 21 novembre nous a déjà valu un certain nombre de réflexions. Oh. Mais oui, parce que dans l'ordo Saint-Pie V traditionnel, la fête du Christ-Roi est le dernier dimanche d'octobre. Et certains esprits s'étonnent que nous choisissions la date de nouvel ordo Paul VI.
Tant que vous ne boostez pas, ça ne pose pas de problème.
Voilà. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons, l'année dernière, fait cette fête, ce rassemblement, le dernier dimanche d'octobre. Malheureusement, ça tombe pendant les vacances scolaires et il n'y avait pas grand monde. Les gens préfèrent partir en vacances plutôt que venir prier pour leur salut. Alors, disons que par souci d'œcuménisme, eh bien, on a choisi la date du nouvel ordre.
Je vous demande si vous êtes en train d'arranger votre cas.
Nouvel ordre. Mais notre œcuménisme ne nous empêche pas de célébrer une messe traditionnelle.
Non, mais la solennité du Christ-Roi, c'est une chose. Mais le Christ-Roi, il est roi.
Et mais il est roi tous les jours. Voilà.
Donc, voilà. On peut très bien célébrer le Christ-Roi une semaine, un mois de retard, même en pleine été, si l'on veut. C'est pas.
Tout à fait.
Je crois que ce sont des considérations assez vaseuses. Ça,
mais certaines personnes nous ont fait ces remarques. Alors,
il y a aussi les gens qui vous reprochent d'aller à la messe de minuit à 10h30 ou même à minuit, parce que minuit, c'est pas l'heure du soleil. Donc, on a quand même un peu dépassé ce stade. Moi, je suis un traditionnaliste moderne. C'est-à-dire que la messe de minuit, si elle commence à 10h30 et qu'elle finit à minuit et demi, 1h du matin, elle est valable.
Le réveillon, quoi.
Voilà.
Bon. Un petit message privé à l'usage de Michel. Oui, je vais vous appeler. Cher Michel, je suis désolé d'avoir autant traîné, parce que j'ai la mauvaise habitude de remettre.
C'est pratique, le téléphone portable.
À demain, ce que je peux faire d'une seule. Comment?
Vous voyez que c'est pratique, la radio, comme téléphone portable.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bien. Alors, maintenant, nous allons examiner un sujet qui, moi, m'a passionné quand je l'ai découvert, puisque c'est un sujet qui a été traité par Laurent Glosi, qui est mon invité ce soir. Laurent Glosi est un personnage, alors, je ne vais pas me lancer dans des grandes descriptions, mais c'est un acharné de l'exploration des textes. Et pour explorer les textes plus facilement, il a appris à parler un nombre de langues assez difficilement évaluable, mais avec beaucoup de sérieux. Donc il lit la presse, on l'a entendu tout à l'heure, la presse néerlandaise, Il parle roumain, il parle allemand, il parle anglais, il parle espagnol, italien, russe. Non, pas espagnol.
Non, pas l'espagnol.
Italien, voilà, mais l'espagnol, c'est assez facile dans l'entente.
Et tout ça normalement ou sous la torture? Non, normalement.
Non, normalement. C'est une ouverture d'esprit à l'extérieur, oui.
C'est-à-dire, on peut bidonner en disant, je comprends tout ce qu'ils disent, mais quand c'est écrit, qu'il faut traduire, bon.
D'ailleurs, je vais relater un petit fait, là, cet été, je suis parti en Bulgarie et j'avais un complexe, et c'était, effectivement, je ne parlais pas bulgare. Et j'en ai fait part à Serge, justement, mais il m'a dit, il ne faut pas vous en faire, ça arrive dans les meilleures familles françaises de ne pas parler le bulgare.
C'est vrai, je connais pas mal de gens qui parlent pas bulgare.
Oui, c'est pas mais c'est frustrant quand on est là-bas parce que c'est un pays qui est, qui est passionnant. Bon, là, on diverge un peu du sujet qui nous intéresse, oui. Mais les langues, effectivement, sont un vecteur d'ouverture.
Et alors, donc, Laurent Glosi, avec cette polysémie. Hein, c'est joli ça.
Polysémie.
Glottis, oui, voilà. Alors,
polysémie.
La multiplicité des signes ou la multiplicité des langues, ce qui est la même chose, car l'écriture est un signe. Et toc. Donc, avec.
Tomber les fax. Hein? Ça va tomber les messages.
C'est. Donc, avec ce talent, il a exploré un sujet qui, me passionne depuis des années, qui est la question que l'abbé de Nantes avait. À propos de laquelle l'abbé de Nantes avait, on peut employer le mot sans exagérer, avait prophétisé, il y a 40 ans, le Masdu.
Le Masdu.
Le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Et il y a 40 ans, et plus maintenant, puisque je crois que c'était dès 62, l'abbé de Nantes avait dit, l'Église va... La spiritualité dans le monde va évoluer, et emporter l'Église, la vraie Église du vrai Dieu, dans une espèce de délire syncrétique, et on assistera à des choses qui nous surprendront. Et il avait appelé ça, donc, le mouvement, il avait dit, parmi ces choses surprenantes, il y aura la naissance d'un mouvement, d'une religion mondiale, que j'appelle le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, ce qui était génial. Le Masdu, c'est une très belle façon de résumer les choses. Et j'ai relu, tout à fait par hasard, ce matin, je relisais des lettres à mes amis, et je suis tombé sur... le discours que tenait l'abbé de Nantes à propos de ça, et en disant, vous verrez que on assistera à des choses absolument invraisemblables, et il disait ce qu'il envisageait. Au pire. Eh bien, aujourd'hui, on constate que le pire qu'imaginait l'abbé de Nantes, c'est le meilleur de ce qu'on pourrait espérer, nous. C'est-à-dire, ça a pris une telle dimension... La prise du pouvoir par le mal et ses légions dans l'Église a pris une telle dimension que les pires craintes de l'abbé de Nantes sont dépassées. Alors c'est le travail qu'a fait Laurent Glosi, c'est un gros travail de compilation, de lecture, de recherche, de vérification, et il a mis en lumière les mécanismes. Il a mis sous le projecteur les gens qui sont les responsables de cette opération. Et il y a notamment un personnage qui est terrifiant, à la fois sur le plan de la personnalité et sur le plan physique, car c'est un démon, il faut le dire. Quand on le regarde, on a l'impression de voir un démon vomi par l'enfer, un petit démon. Qui est un riche, un milliardaire,
oui, tout à fait.
Qui est dans tous les coups les plus, dans le Conseil of Foundation, dans les plus ou moins Night Brit, enfin tous ces trucs un peu tordus, il est là, il entretient des relations avec les familles régnantes, pas les familles titrées, les familles régnantes, c'est par exemple un ami de Madame Blair à côté de laquelle il pose complaisamment, c'est un type qui s'appelle Sigmund Sternberg, et qui est vraiment un personnage, on a l'impression que... Oui, on s'attend toujours à le voir soulever son pantalon et faire apparaître des petits sabots fourchus. Il est absolument terrifiant. Et il joue un rôle capital. Et Laurent Glosi a analysé la façon, étudié la façon dont cette infestation démoniaque se réalise et est en train apparemment de réussir. Alors on a publié ce dossier qui fait 8 pages du Nouveau Journal. C'est pas courant qu'on publie un dossier de 8 pages, mais celui-là m'a paru particulièrement intéressant. C'est un dossier qui est très, en plus qui est très documenté au sens éditorial du terme, c'est-à-dire il y a une demi-page de référence. Rien de ce qui est avancé n'est avancé sans que ce soit, sans qu'on indique
la source,
ouais. La source de l'information. Il y a quelques photos un petit peu surprenantes. Il y a la photo connue, mais moins qu'on le pense, de Jean-Paul II recevant sur le front le signe de Shiva par une prêtresse du tantrisme. Il y a des choses comme ça, tout au Jean-Paul II avec les gens du B'nai B'rit, Madame Blair, dont parlait tout à l'heure Goffman, qui elle aussi a tout à fait l'air d'une espèce de créature sortie d'en bas. Avec un sourire à la fois niais et féroce et un œil d'une tristesse accablée. Enfin, c'est très troublant. Alors, je vais reposer à Laurent les questions que je lui ai déjà posées à plusieurs reprises à mesure qu'il avançait dans ce dossier pour que vous décidiez, chers auditeurs, si ça vous intéresse de prendre connaissance de ce dossier. Moi, je l'ai trouvé passionnant. La première question, Laurent, c'est celle de savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à un sujet comme celui-là, parce que d'abord, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet réjouissant.
Non, effectivement.
Et puis, c'est pas un sujet grand public. Parler de l'Église aujourd'hui, c'est pas très chibrant, quoi.
Mais tout à l'heure, le baron disait qu'on avançait à grands pas vers la catastrophe. Effectivement. On peut remarquer que les événements se précipitent à grands pas.
Tout à fait.
On ne peut pas dire le contraire. Ce qui m'a intéressé dans ce dossier, d'une part, c'est qu'effectivement, moi, je ne connaissais pas spécialement le phénomène du syncrétisme. Ce qui est passionnant, c'est qu'il rend compte d'une chose qui est réelle, c'est d'une chose surnaturelle. C'est-à-dire que il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie de la Sainte Trinité, puisqu'effectivement, avec notre Sainte Mère Marie, dont nous sommes les enfants, dont son divin Fils, et ensuite il y a les autres, ceux qui ne se reconnaissent pas dans la Sainte Trinité. Et les autres, c'est-à-dire c'est tout le reste. Donc il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie de la Sainte Trinité et la hiérarchie du mal. Le mal, effectivement, essayant de vaincre la hiérarchie de la Sainte Trinité. La terre étant là-dedans le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Donc effectivement, lorsqu'on parle de choses comme celle-là, on peut se demander, mais effectivement, comment ça se traduit ici-bas. Et lorsqu'on regarde de plus près certains textes, effectivement, on peut noter d'une manière tout à fait vigoureuse que ce combat qui a lieu dans les cieux est un combat qui est mené d'une manière acharnée sur Terre. Donc ça, c'est le premier point. Donc on peut résumer en disant que le syncrétisme, c'est la lutte du démon contre la Sainte Trinité, en essayant, bien entendu, de noyer la Sainte Messe apostolique dans des religions qui ne sont pas des religions, qui sont des sectes, qui appartiennent à toute autre chose que la Sainte Trinité. Alors, tout à l'heure, Serge, vous parliez du Masdu, mais le syncrétisme a aussi été, pris en note déjà au XIXe siècle par son éminence, le cardinal de Bordeaux, qui était son éminence archevêque, dont je lis, Ferdinand Daunet. Et là, il a une citation tout à fait intéressante. Il écrivait en 1854, dans « Du protestantisme et de toute hérésie dans le rapport avec le socialisme », il écrivait ceci. Donc là aussi, on peut parler de paroles prophétiques. « Les degrés de l'hérésie protestante, socinianisme, philosophisme, naturalisme, rationalisme, éclectisme, syncrétisme, panthéisme, mènent d'abîme en abîme jusqu'au gouffre sans fond où toute société s'anéantit. » Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est au seuil de l'anéantissement de notre société, je veux dire occidentale, mais surtout de société chrétienne. Donc ça, c'est tout à fait important. Ensuite, le second intérêt de ce texte, c'est un texte qui n'est pas spécialement connu en France. Il est d'abord l'œuvre de quelqu'un qui est remarquable, qui est Don Luigi Villa, donc qui est un prêtre de 88 ans, qui est à Brescia. C'est ce fameux prêtre qui avait divulgué en quelque sorte des photos de la tombe de la mère
de
Paul VI, où il y avait des signes kabbalistiques. Ce fameux Paul VI est aussi ce seul pape qui, sur son cercueil, n'avait pas de croix chrétienne. Donc ce texte a été fait il y a quelques mois.
Il faut quand même ajouter un détail, parce que historiquement c'est important, ça cible bien la chose. C'est que quand les photos ont été montrées de la sépulture de la mère de Paul VI, c'était une petite sépulture qui était dans un cimetière normal, quoi, il n'y avait pas de... Et les photos ont eu pour résultat que tout de suite on a élevé une muraille autour de la sépulture pour qu'elle ne puisse plus être vue ni photographiée. Et donc ça veut dire que les révélations en question n'avaient pas fait hausser les épaules à tout le monde. Il y avait des gens qui avaient compris qu'il fallait cacher ça d'urgence. Voilà, c'est un détail de cette affaire.
Donc on voit bien à travers cette affaire que Vatican II est une affaire qui est assez trouble. Et justement le syncrétisme le révèle avec davantage de force. Mais ça on va y revenir tout à l'heure. Ce qui est intéressant, effectivement, avec Don Luigi Villa, donc, c'est qu'il récidive, je dirais, par cet article sur le syncrétisme, dans sa revue qui s'appelle Chiesa Viva. C'est un homme tout à fait sympathique, très modeste, ce qui ne gâche rien pour un prêtre, et excessivement pertinent. Ce qui est excellent, là aussi, pour un prêtre. Ça porte à rire, mais effectivement, on voudrait avoir des prêtres comme ça. Alors, c'est curieux parce qu'il n'a rien de... Ce n'est pas du tout un sédévacantiste ou quelqu'un qui appartient à la fraternité Saint-Pédis. Non, tout simplement un prêtre. Il fait son boulot de prêtre, point final. Et apparemment, il a l'air assez dérangeant. Et cet article a été repris en Allemagne par un théologien qui parle pas mal de langues latines, qui s'appelle Johannes Rothkranz, qui est un travailleur acharné. Il travaille essentiellement la nuit. Donc, il en a fait une traduction en allemand avec des reprises qui lui sont personnelles, des lectures personnelles ou autres. Donc c'est un travail qui, à partir du travail initial, a été enrichi. Donc à partir de là, moi j'ai pris les deux textes, le texte italien, le texte allemand.
J'ai fait la même chose.
Et j'ai enrichi ça avec des textes anglais ou autres, pour essayer d'avoir, je dirais, un miel tout à fait très intéressant, avec des lectures personnelles ou autres, et des réflexions diverses, un travail de recherche personnelle bien évidemment. Donc ce travail m'a coûté, je dirais, dans le papier il fait 8 pages, mais personnellement il m'a coûté plusieurs mois de travail, parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez insondé dans notre, bon, je veux pas dire dans notre pays, même si c'est dans notre pays on n'a pas l'habitude de lire des articles sur le syncrétisme, c'est un sujet qui reste quand même assez caché. Voilà.
Alors, je vais quand même vous soumettre une question intéressante d'un auditeur. Est-ce que l'intervenant peut nous dire d'où il détient des informations que la Sainte Trinité est une religion et les autres religions sont des sectes ? A-t-il un téléphone rouge avec Dieu qui l'aurait peut-être informé ? Alors, moi, je suis toujours étonné par les...
Il n'a pas dit ça.
Non, pas du tout, mais en plus, je suis toujours étonné par les gens qui vous disent, mais enfin, comment avez-vous le front de dire que votre religion est la seule vraie ? Parce que c'est la mienne, d'abord, et que si elle est vraie, forcément, les autres sont fausses, parce que ça c'est fondé, ça s'appelle le principe de non-contradiction, on peut pas être à la fois dans la vérité et dans l'erreur. Par conséquent, si ma religion est vraie et que les autres religions sont différentes, elles sont dans l'erreur, voilà, elles sont fausses. C'est pour ça que je dis de la façon la plus tranquille, l'islam est une fausse religion, point à la ligne, même si ça ne va pas faire plaisir aux musulmans.
Mais même sans cela, on peut montrer que l'islam ou d'autres religions, enfin,
oui, mais c'est même
secte
pas...
passant pour religion, on peut tout à fait démontrer, d'autres l'ont fait, comment ils ont été créés.
Tout à fait.
C'est le travail du chrétien, de dire tout à fait simplement où est l'erreur, puisque nous sommes effectivement, je dirais, des catholiques, des chrétiens.
Mais ce qui est beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est que ça, c'est une maladie qui s'est infiltrée chez les catholiques. Vous avez des catholiques qui vous disent oui, moi, je suis catholique, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Ben, alors, mon vieux, il faut arrêter. Faut faire autre chose. Si vous ne prétendez pas détenir la vérité, vous n'êtes pas catholique, point à la ligne.
Je confirme tout à fait. Dimanche dernier, je distribuais des tracts pour annoncer cette journée du 21 novembre à la sortie de Notre-Dame des Armées à Versailles. Et il y a une jeune femme qui m'a dit, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Elle sortait de la messe.
Oui, c'est ça.
Et les bras m'en sont tombés. Écoutez, je peux
c'est
pas vous...
commode pour distribuer les tracts. Ce qui montre encore une fois, c'est qu'on a perdu, me semble-t-il, la véritable dimension de ce que représente le Fils de Dieu. Et à partir de là aussi, on est dans une traduction tout à fait symptomatique du déclin de notre société, puisque tout vaut tout, il faut tout tolérer, la vérité est partout, y compris dans l'erreur.
Je pense toujours à l'histoire de ce chevalier qui a une disputation théologique avec un juif. Et le juif est un rabbin très fort, et qui envoie des arguments qui naturellement dépassent les compétences du chevalier, aussi compétent soit-il, il est plus guerrier que théologien, et donc il utilise à ce moment-là les moyens qui sont à sa disposition, parce que le juif lui dit, présente un argument assez fort, et le chevalier ne sait pas répondre. Alors il tire, et le juif lui dit, et à ça, que sais-tu répondre? Le chevalier tire sa colichemarde, il coupe le juif en deux, il lui dit, voilà ma réponse, et il s'en va. C'est très très mal, entendons-nous, c'est très mal. Mais ce genre de position dans le débat est quand même un peu ma faveur. Quoi.
Ah hein? Oui, je comprends que
parce que voilà, le gars dit, j'ai raison, mais j'arrive pas bien à vous faire comprendre, alors je vais vous envoyer vers quelqu'un de plus compétent. Et je suis sûr que le juif s'est converti immédiatement. C'est évident, quoi. Donc, c'est vrai qu'un des aspects majeurs de cet article, c'est que ça fait ressortir que chaque fois que la bête syncrétique fait un progrès dans le lent engloutissement de l'Église, parce que c'est en réalité c'est une espèce de boa géant qui digère l'Église catholique. Et bien chaque fois que elle réussit, enfin chaque fois que la digestion avance un peu plus ou l'ingestion avance un peu plus, c'est parce que la proie s'est rendue. C'est évident que quand on voit par exemple que l'ordre de Saint-Grégoire est décerné à quelqu'un qui est à l'évidence, qui est connu, enfin les services du Vatican existent, il y a des services spéciaux au Vatican comme dans tous les États, qui ont des agents, qui font des enquêtes, etc. Donc je suppose qu'avant d'attribuer l'ordre de Saint-Grégoire, la curie fait faire une enquête sur la personne qui va être récipiendaire. C'est comme ça qu'on dit, récipiendaire de cette distinction. Et là, il a été attribué, cet ordre, à un type qui est évidemment un luciférien.
À Sternberg, oui. Ouais. Et le pire, c'est que Sternberg, donc, on lui attribue effectivement l'ordre, enfin, ce qu'on appelle l'ordre effectivement pontifical de Saint-Grégoire le Grand, en 1982. Et c'est ce fameux Sternberg, qui, là aussi, encore une fois, on y reviendra, qui est le financier de l'URI. L'URI étant l'United Religion Initiative, c'est-à-dire cet organisme... Mince, j'ai parlé anglais, il fallait peut-être pas, non?
Et comme c'est son titre, c'est un peu difficile de le dire en espagnol, par exemple.
Oui, mais peut-être qu'on peut l'impossible, non? Je sais pas.
Oui, je pense que tout le monde pourrait.
D'accord. Il est le financier, il est la bête cachée de l'URI. La partie émergente, ou du moins l'initiateur émergent étant Swing, qui est un homme
un évêque...
Tout à fait, oui, un presbytérien anglican qui a eu l'idée de créer cette association, du moins pour tout simplement donner, pour porter l'étendard du syncrétisme dans le monde de la religion. Mais pour ce qui est de Sternberg, donc pour revenir sur l'ordre pontifical de Saint-Grégoire le Grand, ce qui est très fort, donc Jean-Paul II lui le nomme effectivement chevalier de cet ordre, mais Sternberg, si on ne connaît pas son nom, on connaît effectivement les vagues qu'il a pu causer, ou du moins l'actualité dont il est l'initiateur. Prenons seulement deux exemples. Il est l'initiateur de la visite de Jean-Paul II le 13 avril 1986 à la synagogue de Rome, donc ce n'est quand même pas rien. Et de 86 à 93, c'est lui qui s'évertue et qui réussit à faire expulser les sœurs du Carmel du camp d'Auschwitz. Donc on voit que c'est une personne qui est éminemment influente, c'est un très grand financier, et c'est lui qui finance l'URI.
Vous savez, l'histoire de Sternberg décoré par le pape, ça me fait penser à un poulet qui décernerait des étoiles aux cuisiniers qui veulent faire rôtir.
Chirac est titulaire de cet ordre.
Ouais, bon, c'est bravo. Ça, j'ai plus du tout envie de l'avoir. Alors, un auditeur dit,
rassurez-vous.
Ayez le courage de dire que le judaïsme est une fausse religion, comme vous venez de le dire pour l'islam. Mais non, ça, je peux pas le dire, justement, parce que le judaïsme n'est pas une fausse religion. Le judaïsme, c'est le tronc sur lequel le christianisme s'est hanté. Donc, c'est pas une fausse religion, c'est une religion passée, mais c'est une religion qui appartient à notre histoire. L'islam, oui, c'est une fausse religion. Mais
d'ailleurs, certains,
j'ai pas peur de dire que les religions, que les, d'ailleurs, la peur n'a rien à foutre là-dedans. C'est des arabistes tout ça.
D'ailleurs, aujourd'hui, certains préfèrent parler au lieu de parler de judaïsme, préfèrent parler de talmudisme.
Oui, absolument. Moi, je parle plutôt aujourd'hui du Talmud. Le judaïsme n'existe plus. Le vrai judaïsme, c'est le christianisme.
Voilà.
C'est ce que disait encore l'abbé de Nantes, qui disait l'orthodromie du judaïsme, c'est le christianisme. Et puis, bon, maintenant, il y a un ritualisme qui s'appelle le talmudisme, c'est tout à fait autre chose. Une auditrice dit « Je n'ai pas l'impression que ma religion est la vraie, mais je suis, du verbe suivre, bien entendu, le Christ qui est la vérité. » Ben oui, madame, c'est exactement ça. Notre religion, c'est le Christ. Donc, si le Christ, c'est la vérité, notre religion, c'est la vérité. C'est exactement ce que je voulais dire. Et puis, retour de l'intervenant qui s'étonnait qu'on puisse oser dire que notre religion était la vraie, il vous invite, mon cher Laurent, à lire le livre d'Eugène Dreyerman, Les fonctionnaires de Dieu, parce que ça vous éclairera et ça vous aidera éventuellement à ouvrir votre esprit. Effectivement, si ce monsieur est un lecteur de Dreyerman, je comprends.
C'est clair, n'est-ce pas?
Le voile du temple se déchire.
Que pense Serge de Bécasse du prêtre Gilbert qui fait souvent l'apologie de l'islam et des musulmans sur Radio Notre-Dame? Et d'abord, je pense pas qu'il fasse l'apologie de l'islam et des musulmans. Il nous les donne en exemple. C'est bien si je comprends bien ce qu'il veut dire. Le drame de l'islam, c'est que c'est une fausse religion, mais elle est pratiquée par des gens qui sont sincères, croyants.
Ils ont la foi.
Et qui ont la foi.
Et voilà. Ils l'ont plus que nous, et ils nous le reprochent. Voilà. Et ils n'ont pas tort.
C'est tout. Et pour le reste, moi, il me plaît assez ce curé-là. Il y a un côté provocant.
Quand il a marié le prince Laurent de Belgique et qu'il a dit au roi des Belges et à sa femme, toi Albert, toi Paula, moi, je trouve ça de la gueule quand même.
Non. Et puis en plus, bon, avec ses blousons, ses cheveux longs, ses trucs, ça c'est du folklore. Bon, ça c'est pas. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais en revanche, quand une jeune femme qui est à côté de lui lui dit dis donc Gilbert, j'ai un policier dans le tiroir, je vais me le faire sauter, il lui dit non, tu vas pas te faire avorter, parce que l'avortement est un crime, c'est une saleté.
C'est ça qui compte.
Et on va t'aider à garder ton fils ou ton enfant, etc. Voilà, ça compte plus que les blousons de cuir. L'islam existe depuis 1500 ans, on a beau dire que ce n'est pas une religion, ça ne fait que la renforcer. J'en veux pour preuve les centaines et les milliers qui désertent quotidiennement, même si on n'aime pas cela, le christianisme pour se convertir à l'islam et justifie ainsi le proverbe « Les chiens boivent car ils passent ». Non, je crois pas qu'il y ait des milliers et des centaines de milliers qui se convertissent. Il y a toujours des gens idiots, il y a toujours les vagabonds de la foi qui sont lundi protestants, mardi orthodoxes, mercredi...
Il est curieux. Un
film très amusant avec Audrey Tautou, d'ailleurs, qui s'appelle... comment il s'appelle, Dieu me parle ou quelque chose comme ça. Et, c'est exactement ça. C'est une fille gentille, mais elle cherche sa foi et sa voix. Et alors naturellement, ce qui devient très comique, c'est quand elle décide de devenir juive et qu'elle est plus intégriste que n'importe qui.
C'est souvent comme ça.
Évidemment, les convertis qui portent la bannière, on connaît ça.
Un auditeur vous fait remarquer que le Concile Vatican II n'a jamais dit que toutes les religions se valaient. Il dit que les autres religions contiennent des vérités partielles, mais pas la vérité en plénitude que seul le christianisme a reçue.
Eh bien, on est d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec le Concile.
Vous êtes conciliant.
Et puis un auditeur, vous reprend, Clovis était bien dans la religion catholique. Le concile de Nicée avait proclamé le credo en 425 après Jésus-Christ. Clovis, c'est en 496. Voilà.
Ah. Enfin, c'est QFD. L'orthodoxie et le protestantisme n'existaient pas à l'époque de Clovis. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, mais ça me paraît un peu hors sujet. En revanche,
Il y a une chose qui est assez intéressante, parce que là, effectivement, il y a des auditeurs qui envoient des messages. Le baron, effectivement, citait Clovis. Lorsqu'on avait... Parce que Clovis était quand même un païen à l'origine, et quand il avait un problème, il le réglait à la lame de son épée, hein, me semble-t-il, au tranchant de son épée. Et lui, c'était un combattant, donc il tergiversait pas trop. Et lorsqu'on lui avait, en quelque sorte, parlé de ce qui s'était passé au mont Golgotha, il avait dit « Ah, si j'avais été là avec mes francs oui. !» Mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence entre ce Clovis-là, cette France-là, et certains de ces auditeurs qui envoient des messages à côté.
Oui, mais c'est surtout maintenant, si on posait la question à Chirac, il disait, si j'avais été là, j'aurais apporté des coups de plus, quoi. C'est exactement ça. Alors, moi, je suis abasourdi quand même quand je vois Chirac aller se présenter dans une église. Enfin, c'est invraisemblable. Il a signé, Madame Veil en parle encore. Dans son bouquin, il a signé les décrets du plus grand holocauste que la France ait connu dans son histoire. Hein, 250 000 enfants assassinés tous les ans. Et il a le front d'aller se pointer dans une église. Moi, ce qui m'étonne, c'est la patience de Dieu qui ne fait pas tomber le feu du ciel sur la tête de ce type-là.
Il y a une explication. Quand il voit sa fille, on peut comprendre. Et ça commence à s'atténuante.
Alors, festival d'hypocrisie, une religion est vraie ou fausse? Le talmudisme est-il vrai? Mais non, le talmudisme est faux. Mais enfin, bon, bien sûr qu'il est faux, le talmudisme, bien sûr. Je ne parle pas du... Vous m'avez demandé, cher monsieur, pourquoi je ne disais pas que le judaïsme était faux. Parce que je ne le pense pas. Le judaïsme, il n'est pas faux, il a disparu, il n'existe plus. Maintenant, c'est le christianisme qui occupe cette place. Bon, et puis le talmudisme, c'est une religion qui est pratiquée par des gens qui croient que le judaïsme existe encore. Voilà, c'est tout. C'est mon opinion et je la partage. Je suis catholique, ce que je dis est vrai. Voilà. Mon cher Laurent, merci d'être venu nous donner un aperçu de votre papier. Juste un aperçu, parce que c'est un papier bourré d'informations, que j'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à cette question à lire. Ça pourra pas leur faire de mal. Et surtout, ça leur permettra de mieux comprendre le sens de notre discours de ce soir.
Oui, j'ajouterai aussi une chose, sur l'intérêt de ce papier. C'est qu'il démontre tout à fait clairement les financements. Qui sont les gens qui financent? Alors, il y a des noms qui apparaissent autour de Lurie. Ouais. Par exemple, très, très, très brièvement, parce que c'est intéressant. Ah, le marquis doit partir.
Ouais.
D'accord. Donc, on voit très brièvement que, par exemple, Gorbatchev est le président d'une association. Autour de ça, il y a des gens comme le Dalai Lama.
Ouais,
c'est truffé de gens comme Otto de Habsbourg, comme des gens du 33e degré. On y retrouve aussi des gens de la CFR, de Nalbuy, de la famille.
Ne dites pas tout ce qu'il y a dans votre papier,
non.
Parce que après, plus personne ne le lira.
On est très loin du compte, justement. On y trouve aussi des tas de sectes. On y trouve notamment des alliances avec des gens de l'Église et de la secte sataniste, la Wicca.
La Wicca et la Scientologie.
Mais c'est peut-être une religion, la Wicca, non?
Mais c'est certainement une religion, donc, qui est probablement un peu dans le vrai.
Oui, un peu quand même, donc, tout à fait.
Merci, Laurent. Marquis, pardon de vous avoir mis sur les charbons ardents.
Non, je pense que
vous vouliez nous...
On met pas la musique, non, c'est pas la peine. Non, mais si la personne qui m'attend en voiture est en double fil, qu'elle attende encore 5 minutes. Voilà. Mais oui, pardonnez-moi, c'est assez rare que je fasse ça, mais là, ce soir, j'ai une obligation. Si vous voulez avoir des comptes rendus dans le Libre Journal, il faut que je me montre un peu dans le monde.
Non, si vous voulez aller dîner à Bruxelles.
Non. Je voulais simplement dire un mot, toujours à propos du Libre Journal. On a la chance d'avoir en première page la très belle photo de Jean Raspail, qui lit un exemplaire du Libre Journal sous les pommiers, chez Anne Brassier. métier. Et tout ça parce qu'il a eu le prix d'Odesse, qui est tout à fait mérité. Mais je suis très heureux d'avoir écouté lundi soir M. Jean Raspail sur cette radio, parce que moi, ça fait 10 ans que je dis que le petit prince espagnol, français, pour ceux qui s'intéressent, se fout éperdument de ce qu'il représente, même s'il a beaucoup d'élégance et beaucoup de gentillesse. Et M. Jean Raspail, il l'a expliqué fort bien, très bien, dans les termes que moi j'avais à peu près employés à une certaine époque. Alors ceux qui me crachent à la figure de temps en temps, je les invite à aller en parler avec M. Jean Raspail. Je voulais dire dans la foulée qu'il y a quelque temps, j'avais dit que les gens qui entouraient le duc de Beaufremont, les messieurs étaient des dindons et les dames des pintades. Il y en a quelques-uns qui l'ont assez mal reçu, mais j'ai appris avec bonheur qu'il y a un groupe de dames versaillaises qui sont membres de l'Institut de la Maison de Bourbon, que ça a beaucoup amusé et qui entre elles maintenant s'appellent les pintades. Et quand elles se téléphonent, bonjour, c'est la pintade à telle. Alors, mesdames, puisque vous êtes auditrices, lectrices, mesdames les pintades, voilà, le vieux poulet vous embrasse et vous remercie de votre gentillesse, de votre intelligence, et vous avez compris qu'il y a parfois de l'humour dans des propos un peu acides. J'ajoute que le prince aurait pu venir se marier en France, et on me dit, c'est marié à Saint-Domingue, pourquoi? Ben parce que son beau-père a une très jolie propriété à Saint-Domingue, encore plus grande que les 3 ou 4 qu'il a au Venezuela, et ça s'est passé à Saint-Domingue, tout simplement parce que là, on pouvait recevoir beaucoup de monde, et parmi les seuls invités français, il n'y avait pas le duc de Beaufremont, il n'y a pas de grand nom, mais il y avait M. Thierry Ardisson, qui, parce qu'il a écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelait Louis XX, a été invité. Alors, je ne sais pas s'il est allé, mais en tout cas, ça donne déjà une idée de l'idée que peut avoir le prince de sa mission en invitant Thierry Ardisson.
Il a
voilà.
Été renseigné d'abord pour savoir s'il y a Saint-Domingue, il y a eu de la neige.
Voilà, et moi, je pense qu'il va faire ses commissions et qu'il va rentrer, et on pourra avoir des champignons, etc. Bref, voilà, j'ai dit vénérable maître.
Et voilà, ça y est, notre réputation est foutue. Merci, mon cher Marquis.
Vous pouvez m'en aller.
Vous pouvez regagner votre voiture avec chauffeur.
Voilà, merci beaucoup.
Cécilia nous envoie un petit mot très, très amusant qui est paru dans la Vienne démocratique. Il y a un journal qui s'appelle la Vienne démocratique. Ça arrive à des gens bien aussi. Et il y a également l'Écho chauvinois, qui est le journal du PCF de Chauvigny. Il y a donc un parti communiste français, enfin F, ça doit avoir l'air français à Chauvigny, et il a un journal, ce parti communiste doit être deux, un qui l'écrit, l'autre qui le lit, qui s'appelle l'Écho chauvinois. Et alors, il y a une lettre dedans, que je m'en vais vous lire, qui est une lettre de M. Alain Lebeau, conseiller municipal, 3 allée Paul-Éluard, 86 300 Chauvigny. À Monsieur le maire, mairie Chauvigny, le 10 octobre 2004. Monsieur le maire, je viens de recevoir votre invitation à participer à la célébration d'une messe que vous avez voulu conjointe avec la cérémonie inaugurale de la restauration de la collégiale Saint-Pierre. Mon devoir de citoyen élu de la République, un conseiller municipal d'un village de 200 habitants, il se mouche pas du coude, hein. Mon devoir de citoyen élu de la République est de vous avertir sur la confusion de cette invitation. Je me dois de vous rappeler que le principe républicain de laïcité ne peut s'accommoder de la tolérance envers les diverses manifestations publiques de la croyance religieuse, non par attitude de négation de l'existence d'un Dieu, mais parce que la religion est une affaire privée individuelle. Nul ne peut imposer dans la vie publique ses choix personnels de pensée. Je vous demande de bien vouloir revoir l'ordonnancement de cette manifestation en respectant les principes républicains de séparation de l'Église et de l'État. Recevez, monsieur le maire, Patin Couffin. Alors, de la part d'un type qui est probablement le représentant d'un parti qui assure la conscience, la mort de millions de chrétiens assassinés, persécutés, déportés, traités comme des esclaves, emprisonnés. Je trouve qu'il y a une impudence. Quand est-ce qu'on sera libéré de cette vermine? De cette vermine répugnante des communistes. Moi, je suis abasourdi que ces types-là aient encore le front de ramener leurs fraises, alors qu'ils ont sur les mains le sang de 20 fois plus de morts qu'Hitler. C'est quand même incroyable. Hitler, petit agitateur sous Staline. Et il vient nous donner des sons. Et alors, c'est merveilleux parce qu'il dit, la laïcité ne peut s'accommoder de la tolérance envers les diverses manifestations publiques. Alors, ça, on sait qu'il s'accommodait guère de la tolérance. Si on sait ce que font les communistes contre les chrétiens dans le monde entier, en Espagne, où ils ont cloué des religieuses aux portes des églises, ils ont sorti les cadavres des cimetières pour les fusiller, pour fusiller les prêtres morts. Enfin, ce sont des monstres. Et que monsieur Alain Lebeau, conseiller municipal 3 à l'Épaule-et-Loire, 86 300 Chauvigny, ait le culot de ramener sa fraise après 70 ans de malheur que ce régime d'horreur a fait peser sur le monde entier, c'est ahurissant quand même. Et qui est en plus un journal, l'Écho chauvinois, journal du PCF de Chauvigny. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les chauvinois pour avoir un journal communiste? C'est effrayant. La Vienne démocratique, périodique de la Fédération de la Vienne, ça doit être du parti, oui, du PCF aussi. Alors, disons, ils sont bien. Ils ont deux journaux, l'Écho chauvinois et la Vienne démocratique. Ça ne m'étonne pas que l'humanité soit en faillite. Ah là là. Bon, et ben voilà. D'autres messages?
Tout à l'heure, qu'est-ce que j'apprends, nous dit cet auditeur. Tout à l'heure, Serge de Becquetch a fait un blanc. Mais c'est discriminatoire. C'est un scandale.
Oui, c'est vrai. Il a raison, cet auditeur. Je suis obligé de reconnaître que mais c'était une maladresse de ma part.
Et qu'on nous dit aussi que, quelles qu'aient été les erreurs du Saint-Père, j'ai entendu à deux reprises récemment, je l'ai entendu parler de notre héritage gréco-romano-chrétien, alors que jusqu'à présent, il disait seulement héritage judéo-chrétien. Et puis Madame Gbagbo Baptiste est dans les mains d'une puissante congrégation américaine et elle influence beaucoup son mari. Et on nous demande aussi qui pilotait les avions détruits au sol par les Français.
Des pilotes ukrainiens et biélorusses.
Et puis, si...
Monsieur, je sais tout. Je devrais participer à la question pour un champion.
Oui, vous devriez.
Mais on pose pas ce genre de questions.
Pourquoi il serait utile, à propos de l'Afrique, il serait utile d'inviter M. Bernard Lugan. Je me souviens parfaitement qu'au cours d'une émission, il avait déclaré qu'à propos des accords de Marcoussi, sans vouloir pourtant jouer les Cassandres, il ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'à court ou moyen terme, ça ne tiendrait pas. On a aujourd'hui la preuve que ses prévisions étaient justes.
Et oui, absolument. C'est pour ça que je suis tout à fait chaudement partisan de l'attribution d'un livre journal à Bernard Lugan. D'ailleurs, je dois dire que je suis loin d'être le seul dans cette disposition d'esprit, puisque au cours du déjeuner du 7 novembre, de très très nombreux directeurs d'intervention, directeurs d'émission, ont conclu leur intervention en faisant part de la demande des invités, ils n'étaient pas invités, ils avaient payé leur place à chasseur, des participants au déjeuner qui étaient à la table de ces directeurs d'émission, la demande de confier une émission à Bernard Lugan. J'ai constaté que les appels nombreux que j'ai lancés à ce micro pour cette cause ont été entendus, et je crois qu'il faut persister, il faut que Jean Ferré sente que se manifeste un besoin, peut-être qu'il n'est pas. Moi, je pense que s'il ne donne pas d'émission à Bernard Lugan pour l'instant, c'est parce qu'il n'est pas totalement convaincu que les auditeurs ont envie qu'il ait cette émission. Et je crois que si on lui écrivait pour lui dire voilà, nous le souhaitons, et que si beaucoup, beaucoup de gens l'écrivaient, il n'y a pas de raison. Cette radio est faite pour ses auditeurs, financés par ses auditeurs et par les adhérents, et je vois pas de raison raisonnable pour refuser à ses auditeurs et à ses adhérents une demande qu'ils font avec beaucoup d'insistance et en grand nombre. Donc je suis tout à fait d'accord, moi je serais très très content, vraiment très content que Bernard ait une émission régulière, et d'autant que c'est un précieux collaborateur et un très très bon connaisseur de la réalité africaine. Voilà.
Et puis peut-être le tout dernier, un rappel, on nous demande où se tient la réunion royaliste du 21 novembre, donc c'est au domaine de Grand-Maison à Villepreux.
Voilà où il aurait dû se marier, Loulou, au lieu de se marier à Saint-Domingue.
Voilà. Et pour avoir des renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 71 02 26 47.
Merci, chers auditeurs. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je serai là dans 15 jours, si Dieu veut. Et d'ici là, que Dieu nous garde.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci de nous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe. Je m'excuse par avance puisque j'ai la voix un petit peu éraillée due aux premières fraîcheurs hivernales, mais ça ne nous empêchera pas de tenir notre émission comme d'habitude, donc 7h30 consacrée autour des chroniques de la vieille Europe à l'actualité géopolitique puis culturelle de notre plus grande Europe. Dans le studio, comme à l'accoutumée, Xavier Van Lierde, qui est rédacteur en chef de Relève Politique, Patrick Péel, journaliste, et Grégoire Gambier, journaliste, qui n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Alors, comme d'habitude, c'est un petit peu une conséquence inévitable de cette émission mensuelle. Il se passe toujours beaucoup de choses depuis entre deux rendez-vous. La chose la plus importante qui s'est déroulée, c'est très manifestement, à en voir la couverture médiatique européenne, c'est l'élection de George Bush aux États-Unis. On a assisté effectivement à une espèce de déconvenue du système politique et médiatique français qui était tout penaud de cette défaite de John Kerry. Alors, beaucoup a été dit là-dessus. Xavier Van Lierde, peut-être de manière la plus synthétique possible, est-ce que la réélection de George Bush est une bonne nouvelle pour l'Europe et qu'est-ce qu'on peut en déduire pour cette thématique d'Europe puissance que nous manions avec régularité?
Oui, eh bien, écoutez, concernant la réélection de Bush, je pense effectivement qu'il faut descendre d'un ton par rapport à celui qui était celui de la presse française durant la campagne, et spécialement durant les derniers jours de la campagne américaine. D'un certain point de vue, parce que tout est contrasté dans la vie, et tout spécialement dans les relations internationales. Avant de rentrer précisément dans celle-ci, certes, la victoire de Bush est certainement une bonne nouvelle, en ce sens qu'elle est à l'évidence une victoire de force enracinée ou traditionnelle contre une forme de bobocratie internationale. Comme beaucoup de nos amis, j'ai jubilé en voyant les visages déconfits, voire larmoyants, de certains envoyés spéciaux français qui considéraient qu'il y avait là l'émergence d'un nouveau fascisme et autres expressions plus grotesques encore. Cependant, la question fondamentale, c'est celle que vous posiez, c'est l'analyse de l'élection de George Bush au regard de l'intérêt de la France et de l'Europe. L'intérêt de la France, tout d'abord, à l'évidence, il y a un contentieux très lourd entre la France et les États-Unis. C'est un contentieux qui est géopolitique et profond, mais c'est aussi un contentieux entre deux hommes. Et je ne crois pas qu'il puisse, du fait de la psychologie de ces deux hommes, il s'agit de Chirac et de George Bush, s'arranger aussi vite qu'on ne veut le croire, d'autant qu'il entre, comme je le disais, en résonance avec des questions beaucoup plus fondamentales. Concernant l'Europe, là aussi, on peut voir les choses à contrario en creux. Ceux qui sont partisans d'un rapprochement transatlantique considèrent que la place de l'Europe est d'être un ami indéfectible des États-Unis et son vassal. Eh bien, de ce point de vue-là, la victoire de George Bush n'est pas une bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle n'est pas une bonne nouvelle parce que George Bush n'a pas bonne presse en France et en Europe. Il donne un visage brutal et caricatural à son pays, et dès lors, il est évident qu'il ne favorise pas ce rapprochement parce que les opinions publiques et d'une certaine façon la sensiblerie des opinions publiques européennes le vivraient mal. Donc pour ceux qui sont favorables à un découplage entre l'Europe et les États-Unis, ceux qu'on peut qualifier d'atlantistes, eh bien la victoire de George Bush est une bonne nouvelle. Par ailleurs, il y a autre chose qu'il faut quand même rappeler. C'est que en matière de politique internationale, les différences entre Kerry et Bush étaient avant tout des différences de style. Différences de style puisque leur programme était en fait somme toute quasiment identique. La seule chose c'est qu'on pouvait penser, c'est qu'à l'inverse de Bush, Kerry serait capable d'avancer les pions de l'Amérique à l'égard de l'Europe, serait capable de faire accepter le leadership de l'Amérique sur l'Europe, et donc on peut se féliciter qu'il ait été battu. Il y a un autre élément peut-être à prendre en compte, c'est que traditionnellement, les démocrates s'intéressent bien davantage à l'Europe centrale, orientale et à l'est du grand continent eurasiatique que les administrations républicaines qui focalisent davantage, comme on l'a vu, sur le Moyen-Orient. On sait par exemple ainsi que le conseiller pour les affaires internationales de John Kerry n'était autre que le fils de Zbigniew Brzezinski, dont l'obsession n'est autre que d'éviter la réconciliation entre la Russie d'un côté, le monde slave et l'Europe occidentale catholique, voilà.
D'accord, alors on va, puisque Grégoire Gambier nous a fait l'amitié d'arriver presque à l'heure et qu'il nous a rejoint, on va lui demander son point de vue sur la question, s'il complète ou s'il diffère de celui de Xavier Van Leerde.
Oui, bah, je ne diffère pas beaucoup de Xavier Van Leerde pour dire avant tout que le triomphe de Bush Junior, parce qu'il s'agit bien d'un triomphe à l'aune des élections américaines, bien sûr, le triomphe de Bush Junior est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que je reste convaincu que effectivement George Bush est le meilleur agent pour faire avancer l'idée européenne, l'idée d'une indépendance et même, osons le mot, d'une souveraineté européenne. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un événement qui était attendu par nous et un certain nombre d'observateurs, mais qui a eu le bon goût de surprendre la médiasphère et tout particulièrement la médiasphère française. Alors il faudra bien un jour quand même s'interroger sur cet autisme persistant qui, de Phnom Penh jusqu'à Timisoara, a fait quand même dire beaucoup de choses particulièrement stupides par les journalistes patentés. Le troisième point, c'est que cela confirme aussi l'irréductible altérité entre ce qu'il est convenu quand même d'admettre qu'est l'américanisme et la vieille Europe dont nous nous prévalons. Et en ce sens, là je rejoins Xavier Van Leerde, les bons ne sont pas toujours ceux que l'on croit ou on le croit, puisque en fait la victoire de Bush n'est pas du tout liée à l'opération en Irak, mais bien en fait à l'organisation concomitante, comme par hasard, de référendum sur la sur les questions de mœurs et notamment le mariage homosexuel qui a été largement effectivement refusé par les Américains. Donc et c'est en cela en fait que la victoire de Bush est surtout intéressante, mais ça souligne une fois de plus le fossé entre l'américanisme d'une part et la vieille Europe qui au même moment, je vous le rappelle, notamment en France en tout cas, lançait Pink TV.
Et puis on pourrait compléter aussi sur le, puisque la classe politique française veut absolument prendre des leçons aux États-Unis. On pourrait aussi prendre une leçon de tactique électorale qui est que lorsque vous faites campagne sur vos valeurs et que vous cultivez l'essence même de vos valeurs et que vous n'hésitez pas à dire que vous êtes de droite plutôt que d'essayer de courtiser le centre, et bien vous gagnez.
Oui, enfin, sachant qu'une fois de plus, c'est bien, on parle bien de l'américanisme qui est qui est déjà intrinsèquement, fondamentalement différent de l'européanité et plus ça va et plus c'est le cas.
Vous m'inquiétez, est-ce que les faveurs pour le meilleur gay serait un élément constitutif de l'identité européenne.
Non, mais je pense que malheureusement qu'aucun candidat à la présidence française ne peut se permettre, compte tenu du poids de la médiasphère évoqué tout à l'heure, de faire une campagne sur ce sujet. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez regarder les scores de Christine Boutin à la dernière élection, si tant est qu'elle était le meilleur héros de cette cause. Le quatrième point, peut-être, pour finir par une pirouette qui va amuser Xavier Van Leerde, je rapprocherai cette élection une fois plus triomphale de Bush à la tête des États-Unis, avec celle non moins triomphale de Poutine à sa réélection en Russie, pour me rendre compte que finalement, pour reprendre le mot de Jordis von Lausen, les empires, c'est la puissance. Quand on voit que les nations, c'est pas tout à fait ça, et il suffit de comparer ne serait-ce que les scrutins en France à la présidentielle et récemment aux États-Unis avec Bush.
Merci. Alors, à supposer donc que, comme on vient de l'entendre, l'élection de Bush soit une bonne nouvelle pour l'Europe et donc pour la France telle que nous la souhaitons. Il y a en tout cas une bonne nouvelle, celle-là, elle est plus marginale, mais son symbole est fort. C'est la fusion qui a été annoncée avec surprise entre l'entreprise Sagem et la Snecma. Sagem, c'est cette entreprise typique de ce milieu des ingénieurs à la française, très réactif, très inventif, qui se sont adaptés à plusieurs marchés difficiles, jusqu'à damer le pion aux fabricants suédois de téléphones mobiles, par exemple, pour ne parler que de lui. La Snecma, c'est le plus ancien motoriste, c'est le partenaire civil et militaire des grands constructeurs mondiaux. Et donc, c'est enfin, on assiste là, dans ce mariage, d'abord à une opération qui permet de privatiser subrepticement la Snecma. Alors, on s'en félicitera pas sur un plan strict strictement comptable, mais surtout de voir une fois de plus une entreprise qui a du potentiel échapper à l'espèce de gang corporatiste du capitalisme, du socio-capitalisme à la française. Et puis, mais c'est surtout un géant national qui devient hors de portée des principaux prédateurs financiers et qui précipite ce mouvement de concentration dans les entreprises plus ou moins proches du secteur de la défense. On a parlé ici à cette antenne longuement des souhaits des gouvernements français et allemands de construire une espèce de EADS naval. Les choses avancent beaucoup plus vite en Allemagne qu'en France. Les Allemands souhaitent de leur côté, entre leurs différents chantiers navals, les fusionner pour construire un champion qui traitera à armes égales avec Thalès et la DCN pour la France. C'est au Parlement français que les discussions sont les plus vives pour transformer le statut de la DCN. La DCN, c'est la Direction des Constructions Navales. C'est un ancien établissement public. Et donc, une fois de plus, d'ailleurs, le comité central d'entreprise à majorité CGT de la DCN s'est opposé à cette transformation. Donc, une fois de plus, les nouveaux poujadistes s'opposent à la logique de puissance. Donc, Sajem Snekma, voilà, toujours dans ce milieu industriel que nous suivons de près ici aux Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie, voilà une bonne nouvelles. Et donc, c'est un petit peu en lien avec cette idée d'intelligence économique et de puissance industrielle à construire qui avance, mine de rien, Xavier Van Leerd.
C'est totalement en lien avec cette idée. C'est totalement en lien avec la progression, finalement, somme toute rapide, de cette idée de nécessité de renouer avec des politiques industrielles, des politiques industrielles qui ne sont plus du tout conçues comme par le passé, c'est-à-dire sous forme de gosse plan piloté par l'État, mais par le rapprochement plus ou moins favorisé de grands groupes nationaux pour constituer à terme des grands groupes européens capables de rivaliser à l'échelle planétaire avec leurs concurrents. Et cette idée progresse tellement qu'elle finit même par investir les bastions dans lesquels résistaient encore ceux qui, semble-t-il, pensaient que décidément la mondialisation ce n'était qu'un moyen d'assurer une plus grande croissance mondiale avec des bénéfices pour tous et sans qu'il y ait de pensée maligne entre les compétiteurs. L'un de ces bastions, c'était à l'évidence le mouvement des entreprises de France, le célèbre MEDEF, puisqu'on se souvient que lorsque l'entreprise pharmaceutique française Sanofi avait voulu fusionner avec Aventis, le gouvernement avait soutenu l'initiative, avait apporté son soutien au moins moral à cette initiative, et qu'à l'époque, le baron Seyer avait jugé opportun de dire qu'il pensait que l'État n'avait pas à se mêler de ce genre d'opération.
Donc c'était sa première passe d'armes avec le pauvre Raffarin.
Voilà, première passe d'armes qui, rappelons-le, s'est déroulée juste après que le Premier ministre ait décidé de nommer un haut responsable à l'intelligence économique. C'était donc un geste fort qui faisait craindre le pire. Eh bien, divine surprise, le MEDEF vient de s'aligner puisqu'il a publié un rapport qui s'intitule « Intelligence économique, recommandations et propositions du MEDEF ». C'est donc un rapport officiel et c'est un rapport qui démontre à quel point les esprits sont en train de changer puisque dans ce rapport, on voit d'abord fleurir un certain nombre de termes tels que « guerre économique »,« technologie de souveraineté »,« légitime défense économique », nécessité de définir un périmètre stratégique, de conduire même des politiques industrielles. Dans la bouche du MEDEF, c'est...
Mais qui était le nègre de ce rapport? C'est peut-être éclairant.
Écoutez, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. C'est une commission ad hoc du MEDEF qui l'a rédigé. Et c'est somme toute une très très bonne nouvelle, parce que le grand risque de cette démarche d'intelligence économique conçue par son initiateur en France, Bernard Carayon, comme une grande politique publique, c'était le risque, c'était de voir les milieux du privé se dire « Ouh là 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 là, ça c'est une façon pour l'État de reprendre la main dans un domaine qui lui échappait depuis que l'interventionnisme avait montré ses limites ». Or, si les institutions principales du privé répondent positivement, eh bien on pourra espérer, et c'est nécessaire, c'est souhaitable, nécessaire pour la survie de la France en tant que puissance et de l'Europe en tant que puissance, de voir enfin s'instaurer un grand partenariat public-privé tel qu'il existe entre chez nos principaux concurrents, voire adversaires. Oui, un petit peu, enfin, dans le même ordre d'idée, si l'on veut. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut saluer donc le renforcement des capacités de recherche publique, cette fois-ci à l'échelon de l'Union européenne, puisque la Commission européenne vient d'adopter un grand plan pour la recherche avec un conseil de recherche européen musclé, qui se veut le pendant de ce qui se fait outre-Atlantique pour booster la recherche européenne, maintenir des laboratoires de qualité, et c'est bien, c'est à ça qu'on reconnaît que c'est fait par la Commission européenne, c'est que ce n'est pas à 100% public, le but étant bien évidemment de mettre en synergie des capitaux privés et publics pour, en gros, le bien commun et maintenir le rang et la puissance de l'Europe.
Alors, on peut, puisqu'on parle de recherche et de technologie, on peut faire un bref commentaire également sur le dossier ITER, dont on a, qu'on a peut-être évoqué lors d'une première mission. Le dossier ITER, c'est quoi? C'est ce projet technologique phare de la technologie du futur. C'est un projet qui consiste à travailler sur la transformation et l'utilisation pour les énergies terrestres d'une énergie qui vient des étoiles. Le projet ITER, c'est un projet plurinational de 10 milliards de dollars. Les États partenaires sont le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis d'un côté, la France, la Chine et la Russie de l'autre. La bataille est la suivante, où implanter le site qui recevra le gros réacteur et donc l'ensemble de la matière grise et des bénéfices économiques. La compétition est rude puisqu'il y a deux sites qui sont retenus, Karadash en France, soutenu donc par la France, la Russie, la Chine, et le site nucléaire japonais dans l'île de Hokkaido, dont j'espère vous me pardonnerez la prononciation du nom, donc je ne donnerai pas. Ce qui est intéressant, c'est que le consensus qui devait se faire à Vienne, qui est toujours la capitale internationale de ce genre de discussion sur la technologie et l'énergie atomique, le consensus a chopé et l'Union européenne ainsi que la Russie et la Chine se sont déclarées prêtes à faire ITER toutes seules. À Karadash en France. Donc à Karadash, pardon. Derrière ça, il y a donc pour la première fois, il y a une audace folle des Européens, soutenus par leurs partenaires russes et chinois, pour envisager un projet d'envergure seul, donc en se privant d'un certain nombre de sources de financement venant des États-Unis. Mais donc, ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs la bataille qui s'était livrée autour de Galiléo. Donc voilà, un certain nombre de facteurs qui prouvent qu'il y a un certain nombre d'audace qui se libère et qui vise à l'indépendance de l'Europe et de ses partenaires les plus sûrs du moment.
En parlant d'audace à propos de Galiléo, on peut souligner que les Américains, eux, n'en manquent pas, puisqu'ils ont souligné récemment que si cet instrument de positionnement par satellite européen, qui est aussi un instrument commercial auquel de nombreuses puissances pourront recourir si elles le souhaitent, eh bien, dans le cas où il serait utilisé par telle ou telle puissance en conflit avec les États-Unis, eh bien, dans ce cas-là, c'est très simple, les États-Unis le détruiraient.
Voilà. Oui, ça le mérite d'être. Alors, sur la scène purement européenne, je voudrais mettre en perspective trois faits différents et puis vous demander vos réactions. Il y a trois éléments qui me paraissent aller de pair. Le premier, c'est, on en a évidemment abondamment parlé, c'est le retoquage dans la nouvelle Commission européenne du commissaire italien Rocco Buttiglione pour ses propos hautement politiquement incorrects, mais surtout le fait que maintenant qu'il sort de ce poste-là, il décide de fonder en Italie un cénacle de conservateurs catholiques pour peser sur la vie politique du pays. Le deuxième élément, c'est ce qui vient de se passer en Hollande. La Hollande, c'est les Pays-Bas, c'est le paradis de la tolérance, l'endroit où les communautés vont vivre harmonieusement ensemble, sauf qu'on vient de se rendre compte que un cinéaste, Théo van Gogh, qui avait fait avec une députée kurde, je crois, un documentaire très musclé contre les dérives de l'islam militant, eh bien, a été assassiné par un jeune militant islamiste marocain. Et puis le troisième...
De nationalité néerlandaise.
De nationalité néerlandaise. française. Et le troisième élément, ben, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui en Flandre chez nos amis du Vlaams Blok, qui ont été finalement condamnés par la justice de leur pays pour des propos discriminatoires. Donc le Vlaams Blok est condamné, il est donc conduit et obligé à changer de nom, mais il prend immédiatement l'initiative en réunissant un congrès et il entend bien contribuer à continuer à être le premier parti de Flandre, et même les journaux les moins sympathiques lui prêtent le crédit de 27% des voix et pensent que le fameux cordon sanitaire ne pourra pas tenir. Alors, c'est un peu des thématiques sur lesquelles on réagit dans cette émission des Chroniques de la Vieille Europe. Est-ce qu'on n'a pas trois espèces de réaction des peuples autochtones qui sont en train de se réunir, de se radicaliser, peut-être demain de se communautariser? On avait reçu Jean-Yves Le Gallou qui avait lancé sa fondation Polémia, dont on a d'ailleurs parlé dans le Figaro au mois d'octobre, donc c'était une bonne percée médiatique de Polémia. Il avait parlé de la communautarisation des euro-français. Est-ce qu'on n'a pas là une tentative de communautarisation ici des euro-italiens, là des euro-flamands et tout en haut des euro-bataves? Grégoire Gambier.
Oui, certainement. Non, mais c'est le cas hollandais est symptomatique, même si je soulignerais que c'est pas la première fois qu'il y a une dérive de ce genre. Enfin, un meurtre politique, puisque Pim Fortuyn a été assassiné il y a 2 ans.
Oui, mais on a dit pour Pim Fortuyn que son assassin était un déséquilibré membre d'une ligue pour la défense des animaux.
Oui, mais c'est souvent des déséquilibrés dans ces cas-là. Mais moi, au-delà de ces mouvements identitaires, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas eu vraiment de pogrom anti-musulmans dans les grandes villes des Pays-Bas. Il y a eu, bon, comme parfois en France, des tentatives d'incendie de mosquées ou des choses comme ça. Mais moi, ce qui me semble plus fondamental, indépendamment donc de cette réaction première, très encadrée, évidemment condamnée par les médias, c'est plus le retour du meurtre politique comme moyen d'expression, qui me semble plus fondamental comme éléments d'archaïsation des sociétés en général, des sociétés européennes en particulier, qui pensaient y avoir échappé. Et c'est plus sous cet angle-là que je trouve l'élément hollandais intéressant à analyser, tout en condamnant bien évidemment le recours à la violence, et particulièrement le fait que ce soit des musulmans qui veuillent chez nous en Europe décider qui peut faire des films sur l'islam.
Mais il y a quand même, avant de céder la parole à Xavier Van Lierde qui voulait réagir, il y a quand même, que ce soit dans ce que construit Bouttiglione, qui reste ministre du gouvernement Berlusconi, que ce soit dans ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, ou même des vice-ministres, je crois, et des députés du parti majoritaire s'engagent pour là aussi créer une structure identitaire, que ce soit le Vlaams Blok dont on a abondamment parlé. Est-ce que ça, c'est quand même une avancée, c'est comme quelque chose de nouveau sur les scènes politiques de ces pays-là?
Oui, c'est nouveau sans l'être. Hein, ce qui est quand même, quand on regarde ça sur ne serait-ce que 30, 40 ans, ce type de... non pas les événements en eux-mêmes, mais vous parlez bien des conséquences, c'est-à-dire les volontés d'un certain nombre de personnes de se regrouper pour défendre les 2-3 valeurs essentielles qu'ils estiment menacées. Cela fait 40 ans qu'on observe ce type de phénomène. Et dans d'autres pays européens, ce type de réaction hautement salutaire a été arrivé à des plafonds politiques beaucoup plus importants avant de s'effondrer ensuite du jour au lendemain. Donc on a l'impression souvent qu'on attend toujours la petite aube à défaut du grand soir, mais je ne pense pas que ce soit encore pour demain matin. Parce que moi, c'est pour ça que je pense que le fait que la violence revienne dans le champ du politique est plus intéressant, parce que beaucoup plus constructeur de nouveaux schémas de pensée que des réactions à chaud ou à froid en trouvant quand même que les journalistes en font trop dans la chasse aux sorcières, ou que décidément les immigrés aux Pays-Bas veulent pas s'intégrer.
Je suis tout à fait d'accord, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre politique.
Oui.
Il s'agit d'une action d'un d'impérialisme culturel et religieux doublé d'un meurtre rituel. Puisqu'il faut savoir que Théo Van Gogh n'a pas été tué n'importe comment. Il a d'abord été tué au pistolet parce que c'était quand même un gros bastard, Théo Van Gogh. Donc on n'est jamais trop prudent. D'abord abattu, ensuite poignardé et enfin égorgé de façon rituelle. Ce n'est pas un meurtre politique, c'est un meurtre rituel pratiqué selon les rites de l'islam, ce qu'on pratique pour assassiner un impur. Et je crois qu'en faisant cela, et en portant sur lui de surcroît une lettre de revendication où il promet le même sort à toute personne qui critiquera l'islam, ce jeune néerlandais, c'est-à-dire qu'il avait la nationalité néerlandaise d'origine marocaine, a commis une erreur tactique, une erreur en quelque sorte de timing, c'est-à-dire qu'il est sorti un petit peu trop tôt du bois. Mais là où je vous rejoins, Grégoire Gambier, c'est que je pense que cette erreur tactique sera malheureusement sans conséquence pour leur offensive, parce que nous sommes arrivés à un tel stade de castration et nous sommes étouffés par une telle gang que malheureusement elle ne suscite en effet pas en retour les mesures appropriées. Et c'est navrant. Que faudra-t-il qu'il se passe pour que les peuples européens se réveillent pour de bon? Lors des obsèques de Théo Van Gogh, on a pu voir quelques pancartes sympathiques, certaines mettant en cause l'intolérance de l'islam. Bon, fort bien, quelle découverte. C'était d'ailleurs la découverte de Théo Van Gogh lui-même. Il s'était borné à mettre en cause le sort d'une jeune soudanaise ou somalienne, je ne sais plus, victime
de lapidation.
De lapidation. Alors que le problème majeur, on le sait bien, ce n'est pas seulement l'intolérance de l'islam, c'est le fait qu'il soit porté par une population croissante qui monte à l'assaut de l'Europe, que quelques individus intolérants se promènent librement en Europe, c'est navrant, mais voir des populations entières, des millions de personnes s'y déverser et y avoir la croissance démographique la plus importante, eh bien c'est bien autre chose, c'est un basculement historique, voire la fin d'un monde, et c'est navrant que les populations européennes, effectivement, ne sachent pas voir les signe de la soumission qui les attend si elles ne réagissent pas.
Merci. Patrick Péel, vous vouliez intervenir sur cette affaire néerlandaise.
Oui, c'est juste pour l'anecdote. Ce qui était assez, assez marrant à observer, c'est que un artiste s'est fait assassiner. Rappelez-vous, Salman Rushdie, quand il s'était simplement fait menacer, le tollé que ça avait fait dans toute l'Europe et d'un pays étranger. Cette fois-ci, j'ai pas l'impression que le monde artistique et intellectuel français s'est beaucoup mobilisé autour de ce meurtre. C'est-à-dire que là, on a passé une étape à ce niveau-là, et j'ai l'impression que le peuple européen, le monde intellectuel, alors lui, bouge de moins en moins, alors que le cas de Théo Van Gogh est quand même beaucoup plus grave que ce qui est arrivé à Salman Rushdie.
Effectivement, et on peut faire un parallèle avec la levée de bouclier, l'émotion qui s'est saisie tout le continent européen, des plus hauts des institutions jusque dans les loges des concierges, face aux déclarations de Rocco Buttiglione. Et on revient sur ce fait-là. Rocco Buttiglione déclare qu'à titre privé, il considère l'homosexualité contre un péché, ou que le rôle d'un père de famille, c'est quand même de protéger sa femme, ses enfants et de leur apporter la possibilité de mener une vie de famille normale. Et c'est l'émeute. Un cinéaste fait assassiner par un nervi islamiste qui teste nos défenses, et on voit arriver sur nos écrans toute une série de gens qui viennent nous expliquer qu'en fait on n'a pas vu ce qu'on avait vu et qu'on n'avait pas compris ce qu'il fallait comprendre, et que tout ça finalement ce n'est qu'un fait divers regrettable. Concernant Rocco Buttiglione, si je peux ajouter quelque chose très rapidement.
Alors, très rapidement, oui.
Très très rapidement, qui est assez drôle, c'est que Rocco Buttiglione, on le sait, a été lynché en vertu des déclarations qu'il a faites et qui s'appuie sur sa foi catholique. Ce que Rocco Buttiglione ignore certainement, c'est que au-delà du soutien du Vatican, il aurait pu recevoir également le soutien des scientifiques qui sont les héritiers lointains mais en ligne directe d'un certain Charles Darwin, scientifiques qui sont regroupés dans une école qu'on a appelée un temps la sociobiologie, qu'on appelle maintenant la psychologie évolutive, et dont les dernières recherches ont porté, mais c'est l'essentiel de la recherche porte là-dessus, sur les rapports entre les sexes. Et au même titre que Rocco Buttiglione considérait que l'homosexualité est un péché, eh bien ces ultimes darwiniens considèrent, eux, qu'elle est une anormalité, puisqu'effectivement, la fonction première de la sexualité, c'est de permettre à l'espèce de se perpétuer. Ils considèrent que tous les jeux de séduction, notamment, leur fonction première est de transmettre les gènes. Enfin, Pour terminer, dans ce jeu de séduction, ils ont établi une série de typologies pour savoir quels sont les caractères qui font qu'un homme peut aimer une femme et vice-versa. Eh bien, tous ces critères tournent, étudiés scientifiquement, tournent autour d'une vocation qui est celle de fonder une cellule familiale, d'y avoir le maximum d'enfants pour perpétuer l'espèce. En somme, c'est du Buttiglione dans le texte, et le pauvre Buttiglione n'a donc pas été seulement lynché en vertu de sa foi, mais parce que celle-ci et ses convictions étaient en accord tout simplement avec la nature. Et on mesure là l'inversion formidable des valeurs qui s'emparent de notre continent et qui mènent droit à la mort, à l'extinction, à la disparition.
Merci Xavier Van Lier. D'ailleurs, notre première partie de la demi-heure était quand même beaucoup plus optimiste que la seconde, alors on va essayer d'inverser ça dans le cours de l'émission. Merci pour cette demi-heure. On referme cette première demi-heure et nous allons désormais accueillir notre invité.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Les chroniques de la vieille Europe reçoivent ce soir Dominique Venner, vieil européen s'il en est, dans tous les sens du terme.
Toujours jeune.
Bonsoir. Bonsoir Dominique Venner, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons demandé, comme notre public souvent s'intéresse aux questions européennes, mais pas uniquement, de venir nous parler de votre dernier ouvrage. Vous en avez écrit beaucoup, vous êtes directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire. Mais votre dernier ouvrage donc porte sur De Gaulle, un peu le mythe, c'est-à-dire c'est De Gaulle, la grandeur et le néant, aux éditions du Rocher, qui vient de sortir, si je ne m'abuse, et qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors, ma première question, peut-être, c'est, à 20 ans, en tant comme tout patriote normalement constitué, vous vouliez bien sûr abattre De Gaulle. À 40, il se dit, en tout cas vous écrivez, que vous étiez presque, non pas conquis, mais intéressé positivement par le personnage, et finalement là c'est un peu l'heure du bilan de Gaulle, mais aussi de la France. C'est un peu ça l'objet de votre ouvrage.
Oui, vous avez bien résumé succinctement ma démarche ou mon itinéraire par rapport à De Gaulle. Ajoutons simplement que au cours des années qui ont précédé ce livre, les années qui ont suivi cette période où je ressentais presque de l'admiration pour le personnage, parce que en comparaison de tous les nains que l'on pouvait voir autour de nous, il semblait un géant. Ensuite, je me suis en effet interrogé sur le bilan historique du personnage. Et cette interrogation est venue de plusieurs démarches de ma part. Tout d'abord, j'ai travaillé au cours des années en question sur des sujets historiques qui constamment me faisaient rencontrer le personnage historique du général de Gaulle, que ce soit le travail que j'ai fait sur l'histoire critique de la résistance, ensuite l'histoire de la collaboration, d'autres livres qui n'avaient pas trait directement à la France, mais où le personnage pouvait réapparaître. Chaque fois, je retrouvais ce personnage. Et cela, bien sûr, a favorisé ma réflexion. Mais cette réflexion a été guidée par quoi ? Mais elle a été guidée par une interrogation fondamentale. Je vois notre nation, notre patrie, la France, au sein de l'Europe, mais la France d'abord, je vois notre patrie, la France, réduite progressivement à l'état de décombre. Non pas quant à son fonctionnement économique, social au sens simple du mot. C'est une société qui fonctionne économiquement, qui est même relativement prospère pour le moment. Mais l'âme de ce pays, les valeurs qui ont, les valeurs ancestrales qui avaient permis à ce pays d'exister comme nation, tout cela est réduit à l'état de décombre. Et la question que je me suis posée était de savoir quel avait été le rôle du général de Gaulle pour cette réduction à l'état de décombre, sachant qu'il a joué un rôle immense longtemps, pendant 30 ans, de 1940 jusqu'à sa mort, donc 30 ans, jusqu'en 1969. Son rôle n'a pas cessé à sa mort, peut-on dire, puisque il avait tellement marqué la vie politique française et la vie de la société française que son rôle a perduré au-delà, son influence sous des formes nombreuses a perduré au-delà. Quel a été donc le rôle éventuel du général de Gaulle dans ce déclin fondamentale de la France, et notamment dans le déclin des valeurs que apparemment il représente.
Oui, justement, si je vous suis bien, enfin dans votre ouvrage, De Gaulle, la grandeur et le néant. Donc en fait, vous allez pouvoir me contredire, mais donc De Gaulle, il y a d'ailleurs l'ouvrage commence par un portrait psychologique particulièrement saisissant du personnage, portrait inconnu bien sûr, qui n'est pas enseigné dans les établissements scolaires et que l'on risque pas d'entendre, puisque hier encore c'était la commémoration officielle de sa disparition. Vous voyez, tous les ans quand même il est honoré comme le grand homme que l'on sait. Donc indépendamment de ses traits de caractère, bon, il était aussi quand même un peu très très vaniteux, mais comme tous les hommes politiques, mais quand même très grisé de sa propre boursouflure, hein, à des points assez inimaginables. Et on a l'impression que le bilan en fait politique de Gaulle, c'est justement de ne pas avoir de bilan, c'est-à-dire de ne pas avoir eu de prise sur le réel, sur l'état de la France, et de s'être grisé de mots et de verbes incantatoires. Est-ce bien un peu avec le recul ce que l'on peut voir de Gaulle?
Oui, c'est assez bien résumé. C'est quelqu'un qui était, c'est un personnage qui est double ou multiple. Un personnage qui incontestablement en lui-même portait de la grandeur. Ça n'est pas contestable. Il s'est imposé, par exemple, une ascèse tout le long de sa vie, pour une ascèse de tenue quasi royale, à partir du moment où il fut au pouvoir. Et cela n'allait pas, naturellement, sans un effort constant de sa part, un effort de volonté permanent, des satisfactions, bien entendu. Grandeur dans son ambition personnelle, incontestablement. De même, a-t-il manifesté des aptitudes politiques dans la lutte politique, tout à fait exceptionnelle, comme rarement un homme politique français a pu en montrer au XXe siècle. Ça, c'est l'aspect grandeur du personnage qui n'est pas contestable. Et c'est bien la difficulté avec ce personnage, difficile à saisir, parce que il y a une apparence chez lui qui est grande, qui tient à sa personne propre. Mais par ailleurs, il y a son action. Est-ce que la France, en tant que nation vivante, est devenue plus grande à la suite de son intervention dans l'histoire? Mais qu'est-ce qu'on entend d'abord par grandeur pour une nation? Est-ce que pour une nation, la grandeur, ce sont les discours sur la scène diplomatique, par exemple? Et De Gaulle, incontestablement, a joué un rôle sur la scène diplomatique. Il adorait ça. Cela correspondait à son ambition profonde, jouer un rôle. Et à titre personnel, il n'a pas cessé de jouer un rôle immense. C'était un formidable acteur et acteur totalement engagé par rapport à son jeu. Prenant tous les risques de son jeu. Et ça, c'est l'aspect grand aussi du personnage. Mais est-ce que la grandeur d'une nation se résume à cela ? Lui le pensait. Il y a plusieurs déclarations de lui qui montrent que sa vision de la grandeur tient essentiellement à, je vais utiliser intentionnellement un terme péjoratif, pardonnez-moi, à la gesticulation, à l'aspect théâtral.
À la posture. Hein.
À la posture. À la jactance. Il est un peu, de ce point de vue, c'est un peu un personnage à la Déroulède. Déroulède ayant marqué sa jeunesse. Mais est-ce que c'est ça la grandeur d'une nation ? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que la grandeur d'une nation, c'est avant tout l'énergie vitale qui est celle de son peuple et la cohésion de son peuple. C'est ça qui fait la grandeur d'une nation.
Oui, mais sur les deux aspects.
Dans la période marquée, dans la période historique marquée par De Gaulle, on ne peut pas dire que l'énergie vitale de notre peuple et sa cohésion aient été améliorées.
Xavier Van Lierde.
La question qui me taraude, c'est, je suis d'accord avec votre diagnostic, c'est en est-il pour autant responsable ? Est-ce qu'il est responsable en tant que moteur ou en tant que personnage impuissant à empêcher des choses qui sont trop fortes, peut-être pour pouvoir les empêcher, qui sont dues à d'autres facteurs que son action ?
Je voudrais compléter là, parce que j'étais exactement sur le même. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on reprochait à Louis XVI la Révolution française. C'est-à-dire que quelque part, De Gaulle arrive sur la scène politique à un moment où la France est totalement déconstruite, détruite, et qu'elle est victime d'une espèce de boucherie européenne dont les prémices sont plus du côté de Déroulède d'ailleurs que de cette époque-là, que de De Gaulle lui-même. De Gaulle a affronté la France de l'après-guerre qui découvrait la consommation, qui découvrait la disparition totale des valeurs et qui a donné mai 68 et la Chienlit qui l'a accompagné. Est-ce que De Gaulle serait responsable de cela ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas retenir de son idée, de son passage, qu'il a malgré tout donné un certain nombre de jalons dans le pays qui sont peut-être plus technistes, certes, mais qui étaient au moins des pis-allers à cette décadence-là ?
Alors, c'est une bonne question. Et cette question, c'est tout simplement celle du rôle de l'homme dans l'histoire. Est-ce qu'un homme, est-ce qu'un personnage d'exception, c'est un personnage d'exception, est susceptible de modifier, disons pas d'inverser, mais de modifier dans un sens ou un autre, l'évolution d'une société? C'est une grande question. Et dans une certaine mesure, mon livre répond à cette question. Je la pose d'ailleurs au début de mon livre, très exactement dans les termes, en développant dans les termes où vous l'avez posée. Et c'est une question que je me suis posée, que pose mon livre, et donc j'apporte des réponses. Et j'apporte succinctement et rapidement à ce micro une réponse qui est liée à ce que j'ai moi-même vécu. Alors, c'est très intéressant pour un historien d'avoir vécu une période historique. L'historien de la Grèce antique n'a malheureusement pour lui pas la possibilité de vivre ce qu'il décrit. L'historien de l'histoire contemporaine peut avoir éventuellement la chance, pas toujours. Moi, j'ai eu cette chance. De vivre, bon, je n'étais qu'un enfant, tout jeune enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc mes souvenirs de cette époque-là sont des plus succincts. En revanche, j'étais un jeune homme, tout jeune et très engagé, donc très à la fois très actif et très concerné et observant les choses, les vivant avec intensité dans la période qui fut celle du retour du général de Gaulle au pouvoir, c'est-à-dire après mai 58. Et depuis, j'ai pris le recul qui est celui de l'historien par rapport à ces événements que j'ai vécus, par rapport à ces années que j'ai vécues. Et je me suis efforcé de les regarder avec le regard de l'historien, mais sans oublier les sensations qui étaient les miennes à l'époque. Et sans oublier ce que j'ai vu, le spectacle, les hommes, le comportement des foules, le comportement, par exemple, de l'armée en Algérie, que j'ai vu, puisque j'étais moi-même soldat en Algérie. J'ai vu, très rapidement, au tout début de notre arrivée en Algérie, dans l'unité où j'étais, c'était une unité qui était complètement déliquescente. Et puis, en l'espace de quelques mois, par le miracle d'une atmosphère de petite guerre, ce n'était pas une grande guerre, c'était une petite guerre, mais danger, risque, des morts, etc., l'atmosphère a changé, s'est transformée. Et les hommes effondrés que j'ai vus au début se sont redressés. Et pas tous. Mais j'ai observé, et c'est pour moi un souvenir fort, parce que c'est une expérience vécue. J'ai vu des déchets transformés en hommes. Donc je sais que des déchets peuvent être transformés en hommes. C'est, croyez-moi, une grande expérience. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, devant le monde dans lequel nous vivons, mon regard n'est pas toujours nécessairement pessimiste, parce que j'ai ce genre de souvenir. Pour faire bref, De Gaulle revient au pouvoir en mai 58. Il est porté par un immense mouvement que l'on peut décrire comme patriotique, et qui est un mouvement de santé, qui ne se limite pas à l'Algérie, mais que l'on trouve également en France. Vraiment un mouvement de santé, un désir de renouveau. 10 années passent, mai 68. La France a changé de visage. La France de mai 58, c'est la France style parachutiste. La France de mai 68, après 10 ans de pouvoir du général de Gaulle, tout pouvoir. Vous savez ce qu'elle est? C'est la France de la chienlit, c'est celle que nous avons toujours sous des formes diverses. Alors, l'homme qui a pris une France qui était en état de redressement avant lui, et qui l'a conduit pour devenir la France de la chienlit, moi, historien, je rentre ensuite dans le détail de ce processus, mais je constate un effondrement terrifiant. Et cet effondrement terrifiant, il en porte la responsabilité, je le décris. Je consacre un chapitre de ce livre à décrire comment les choses se sont faites. Et elles se sont faites comment, pour simplifier? Le général de Gaulle a connu à deux reprises un drame, non pas pour lui, mais pour la France. Dans la première période des années 40, jusqu'en 1944, et une deuxième fois pendant la période la plus dure de la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie. Il s'est trouvé dans une situation de guerre civile qu'il a favorisé lui-même. Je dis bien favorisé lui-même. Favorisé lui-même parce que c'était un homme de pouvoir et la guerre civile était une situation dans laquelle il était comme un poisson dans l'eau, et c'était un moyen pour lui de parvenir au pouvoir ou de consolider son pouvoir. Dans ces deux occasions-là, il s'est opposé, pour des raisons diverses, il s'est opposé, pour l'essentiel, au courant de fond qui était un courant national, qui était le courant de ses idées. Et il s'est appuyé sur des forces qui étaient à l'opposé de ce que pouvaient être ses propres idées. C'est-à-dire, pour simplifier, le Parti communiste pendant la période de la résistance et au moment de l'épuration et dans la période qui a suivi, et une nouvelle fois d'ailleurs sur le Parti communiste, sur les mouvements de gauche et sur le gauchisme, après 1958, pour lutter cette fois contre ceux que l'on appelait les partisans de l'Algérie française, notamment une partie de l'armée qui l'a sciemment trompé. Les responsabilités qui sont les siennes dans la guerre civile sont gigantesques. Mais le résultat pratique, c'est que cet homme n'a pas cessé de s'appuyer sur ceux qui étaient à l'opposé de ses pensées profondes, au détriment de ceux qui étaient proches de lui et qu'il n'a pas cessé de briser. De cette façon, il a accordé non pas le pouvoir, mais d'immenses pouvoirs au pluriel, notamment dans les médias, notamment dans l'enseignement, à ceux qui étaient la négation même de ses propres idées, mais ça ne l'intéressait pas, parce que cet homme qui avait des idées ne croyait pas aux idées. Il ne savait pas que les idéologies, ça existait. Il ne savait pas qu'on transforme des hommes, un peuple, une société avec des idées. Lui croyait au pouvoir politique au sens traditionnel, on peut dire antérieur à 1789 dans une certaine mesure. C'était à la fois un homme très moderne par certains côtés et très ancien par d'autres. Il n'avait absolument pas perçu l'importance où ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était... Oui, lui jouait un rôle éminent important, et il a joué un rôle éminent important, il a tenu la scène, incontestablement.
Dominique Vénard, à vous écouter, chronologiquement et sur l'analyse, je suis évidemment en phase avec tout ce que vous dites, et c'est vrai qu'il y a un côté particulièrement agaçant et même blessant de Gaulle, de Brasillac, à Bastien-Thierry, dans ce côté diviseur du peuple français. Mais aujourd'hui, quand on a 20 ans en l'an 2000, est-ce que... Ma foi, est-ce que vous ne surévaluez pas un petit peu l'impact de ça et que quelque part ce qui reste de De Gaulle, c'est un homme qui a affronté un pays qui était la France dans une Europe submergée par les nouvelles valeurs issues de sa défaite fondamentale de la Seconde Guerre mondiale et qui malgré tout a continué à se hisser au premier rang de ceux qui décident aujourd'hui dans le monde, même si on sait qu'on décide moins à Paris qu'à Washington.
Qui décide quoi ?
Mais on a bien vu, par exemple, à l'occasion de l'axe à l'ONU au moment de l'entrée en guerre en Irak, la vieille Europe, avec toute perclue de ses carcans et du poids hérité d'abord de Gaulle, les ordonnances de 46 et tout ce qu'on veut, elle est quand même toujours là. Et est-ce qu'on le doit pas quand même à De Gaulle ? Parce que les autres pays qui n'ont pas eu de Gaulle, qui n'ont pas eu de fauteurs de guerre civile, en sont à peu près arrivés aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, la France est capable d'engager un certain mouvement. Bon, on va pas revenir sur les motifs qui ont fait que la France s'est engagée comme elle l'a fait il y a 2-3 ans, mais la France existe, la France est aux premières loges des seconds rangs, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est pas à De Gaulle qu'on le doit, ça? Moi, je trouve, voilà, pour vous résumer,
c'est l'apparence scintillante et qui est tentante, en effet. C'est l'apparence de ce que fut son action sur la scène internationale. Mais qu'est-ce que ça recouvre, ça, sur l'état réel du pays? Est-ce que le pays, pour autant, est grand, comme nous le disions tout à l'heure? Est-ce qu'il est plein d'une énergie profonde? Est-ce qu'il est plein d'une cohésion qui lui a permis, par exemple, de ne pas être envahi par l'immigration maghrébine et africaine, de façon tout à fait naturelle, parce que, portant, comme le Japon, une identité profonde, il ne se serait pas laissé envahir, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la réalité de la grandeur d'un pays. Concernant l'attitude à l'égard des États-Unis, oui, effectivement, de Gaulle, pour diverses raisons, après son retour au pouvoir en 1958, a inversé la politique étrangère de la France qui, jusque-là, collait aux États-Unis. Pour des raisons qui peuvent s'expliquer d'ailleurs, puisqu'on était en pleine guerre froide et l'URSS semblait un danger bien réel et la France se trouvait liée au pacte atlantique pour se défendre contre une éventuelle agression de l'URSS. Mais de Gaulle a inversé incontestablement à ce moment-là l'orientation de la politique étrangère de la France. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la galerie. Parce que au même moment, la France s'est américanisée à l'intérieur. C'est dans ces années-là, c'est-à-dire dans les années 60, que la France s'est imprégnée. Elle s'est imprégnée doublement, la France. Elle s'était imprégnée de marxisme sous des formes multiples dans la période précédente, et elle a continué d'ailleurs. Et à partir des années 60, elle s'imprègne en même temps d'américanisme. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître dans la substance de la société française des valeurs nouvelles qui pour nous aujourd'hui sont tout à fait courantes puisque ce sont celles dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire l'économisme, l'argent roi, le marché triomphant et comme seule valeur, etc. Tout cela était étranger à la France avant le retour au pouvoir du général de Gaulle. Vous me direz qu'il n'est pas seul responsable de cela. Certes, il n'est pas seul responsable de cela. Mais si nous regardons les choses avec un œil critique, historiquement critique, est-ce que son passage au pouvoir a limité l'influence de l'américanisme en France ? Je ne le crois pas. C'est dans cette période-là, au contraire, que le développement de l'américanisme s'est fait. Alors, il y a, par ailleurs, en effet, les gesticulations sur la scène internationale.
Oui, justement, vous consacrez une bonne partie d'un chapitre à l'alliance franco-russe, la naissance, en tout cas, de l'alliance dite franco-russe par de Gaulle, en fait franco-soviétique, donc par opposition à la thalassocratie anglo-saxonne, ce sont de vieux schémas géopolitiques. Vous pouvez peut-être rappeler la genèse de cette troisième voie qui fait tellement encore vibrer 3-4 étudiants de Sciences Po par an, mais donc pour en connaître les vrais ressorts.
Bon, alors
ça va.
Alors, c'est quand même ça.
Bon,
c'est
alors juste que 3-4 étudiants de Sciences Po par an,
oui, un ou deux étudiants de commerce.
À l'origine, il ne s'agissait pas du tout dans la vision du général de Gaulle. À l'origine, c'est très précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir du début de la guerre germano-soviétique en juin 1941. Dès le déclenchement de la guerre germano-soviétique, de Gaulle, qui est à Londres, nous le savons, fait des ouvertures très actives, je décris tout cela dans mon livre, fait des ouvertures très actives en direction du pouvoir soviétique, en direction de Staline précisément, qu'il fait approcher par des émissaires et en direction de l'ambassadeur du RSS en Grande-Bretagne, Maïski. Nous avons sur ce plan-là tous les documents possibles et imaginables. Pourquoi le fait-il ? Eh bien parce que depuis 1940, depuis juin 40, depuis qu'il est en Angleterre, il est entre les mains de Churchill. Churchill avait pensé qu'il serait son instrument. C'est en quoi Churchill s'est trompé, parce que c'était un instrument difficile à manier. Et l'instrument avait la volonté très ferme de prendre son autonomie. Comment prendre son autonomie par rapport à Churchill ? Eh bien, l'une des façons de faire, c'était de trouver un autre partenaire. L'autre partenaire, c'était l'URSS, c'était Staline, à partir du déclenchement de la guerre germano-soviétique. D'où ces tentatives constantes, nombreuses, permanentes, d'alignement sur la stratégie soviétique. Et il va soutenir de façon effective et efficace, parfois, la stratégie soviétique jusqu'en 1945, jusqu'au fameux voyage décembre 1944 en URSS. Le point de départ est là. Mais ensuite, il est en quelque sorte prisonnier de son jeu, parce que ses rapports avec Churchill et avec Roosevelt, dont il dépend en tout, il dépend financièrement, ils peuvent lui couper la radio, ce qu'ils font de temps en temps, enfin surtout Churchill, ils peuvent lui couper les vivres, et ils lui interdisent les communications avec la France libre, avec la résistance, etc. Donc il est très dépendant. Et pour se donner de l'air, il s'appuie, logiquement d'ailleurs, sur l'URSS. Mais ça va le conduire à faire des concessions immenses, qui ne sont pas que des concessions tactiques. Et il en vient, parce que c'est une particularité de son tempérament, De Gaulle, contrairement à l'image qu'il a pu laisser, n'est pas du tout un homme froid. Au contraire, c'est un animal à sang chaud. Qui a une sensibilité extrême, extrêmement développée, qui réagit par rapport aux hommes en fonction de l'attitude que les hommes ont vis-à-vis de lui. Ses rancunes à l'égard de tel ou tel sont infinies. Sa rancune à l'encontre de Churchill et de Roosevelt auront des effets que l'on peut considérer comme positifs bien au-delà de la guerre. Ça explique, dans une large mesure, la position qu'il prendra à l'égard des États-Unis après 1958. Car pour lui, il continue à régler des comptes avec les Américains qui ont été si désagréables pour lui pendant la guerre.
Et oui, mais ça se ramène à sa personne. Alors, oui.
Ça se ramène à sa personne.
Dominique Vénin, excusez-moi, mais à notre grand désespoir à tous, je vais être obligé de...
Oui,
vous connaissez les contraintes et les traditions.
Mais les auditeurs n'auront qu'à lire le livre. Hein.
Voilà, on va rappeler ses coordonnées. Quelques messages d'auditeurs qu'on ne commentera pas, ils se suffisent à eux-mêmes. Vous voyez que le fossé français est toujours là. Il est scandaleux de comparer Robert Brasillach, qui attaquait ses adversaires publiquement et pacifiquement, à Bastien Thierry, petit assassin sournois qui ne méritait qu'une exécution sommaire.
Les grands ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
Voilà. Oui, non, les héritiers politiques de De Gaulle sont Pompidou, Giscard et Chirac, les trois présidents de la République, et ils l'ont trahi, et nous voyons le résultat. Merci à Dominique Vénère pour ces informations, mais il est un peu trop sévère pour la période. À partir de 1958, De Gaulle a quand même remboursé toute l'aide de la France et redressé l'économie quand il est parti. La France était en bon état. On va parvenir, vous avez... Par anticipation répandue à tout ça. Et le dernier auditeur que nous citerons, disons, de toute façon, les historiens et Dominique Vénère en particulier ont toujours raison rétrospectivement. Voilà. On va conclure en citant quand même les coordonnées de votre ouvrage.
Oui, merci Dominique Vénère d'avoir participé à cette émission. Donc nous ne pouvons que conseiller à tous nos auditeurs la lecture donc de cet essai très intéressant, passionnant, qui fourmille d'éclairage à la fois dans les détails, qui explique quand même beaucoup de choses, parce que l'histoire c'est aussi un enchaînement de détails, et une vision plus globale sur effectivement le rôle de l'identité dans l'histoire, de la volonté des hommes, et finalement à quoi sert le pouvoir, s'il ne sert qu'à se regarder soi-même faire de la comédie.
Vous me permettez d'ajouter un seul mot?
Tout à fait. Allez-y, avant que je rappelle les coordonnées de l'ouvrage en question.
Le bon historien, à mon avis, c'est celui qui, entre autres, est capable d'éclairer un ensemble complexe. Et c'est la raison pour laquelle le totem de l'historien devrait être l'oiseau d'Athéna, la chouette, qui, dans l'obscurité, voit clair.
Merci Dominique Vénère. Donc je rappelle le titre de votre dernier essai, De Gaulle, la grandeur et le néant, aux éditions du Rocher.
Merci Grégoire Gambier. Nous passons juste à notre troisième demi-heure dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie.
Bien, nous reprenons cette troisième demi-heure un petit peu écourtée parce que nous avons profité abondamment de Dominique Vénère. Donc, ces dernières 20 minutes sont pour vous, cher Patrick PL. On citera d'ailleurs dans les différentes choses qu'on cite dans cette demi-heure, on donnera aussi les coordonnées de la nouvelle revue d'histoire dont Dominique Vénère est rédacteur en chef.
Alors, je comptais en faire un coup de cœur rapide, mais
on va laisser la main à Patrick PL qui a été comme d'habitude très sage jusqu'à maintenant.
Je vais commencer par une petite annonce toute bête, mais enfin qui est assez étonnante, trouvée sur Internet. C'est de l'art, hein. Vous allez voir. Une jambe de la statue de Saddam Hussein, abattue à Bagdad par un blindé américain, le 9 avril 2003, enfin tout le monde se rappelle de ces images, a été proposée sur un site internet allemand de vente aux enchères. Alors donc, elle mesure 1m70 et lundi, les enchères étaient déjà de 9 800 €. J'ai pas l'adresse du site, mais enfin, vous pouvez faire une recherche et je pense que vous trouverez ces enchères. Alors, ce qui est très marrant, c'est que l'annonce précise que l'objet n'est pas neuf, ce qui me paraît évident, et que la livraison est possible dans le monde entier. Alors après vérification, effectivement, c'est l'armée britannique qui, au poids du...
Les Anglais, ils perdent quand même jamais une occasion.
Hein. Au poids du métal, ont vendu une partie de cette fabuleuse statue de Saddam Hussein. Donc si vous voulez avoir la jambe, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais elle est en vente sur Internet. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Et on va rester sur un deuxième clin d'œil. C'est à Madrid, et c'est toujours une histoire de sculpture. En Espagne, cette fois-ci, tout le monde est d'accord pour retirer la statue équestre du général Franco.
Mais celle-là, on va peut-être l'acheter, celle-là.
Celle-là, on pourra peut-être l'acheter. Le problème, c'est que personne veut s'en charger pour la démonter, parce qu'on ne sait pas à qui elle appartient. Alors, ce qui est assez incroyable. Alors, le maire a répondu que la statue n'appartenait pas à la ville et a invité le député à s'adresser au ministère des Travaux Publics. Ce dernier a impliqué que la statue n'était pas la propriété du ministère et que le mieux serait de s'adresser à la direction du patrimoine national. La dite direction a expliqué à son tour que ce bien meuble n'apparaît pas dans l'inventaire de l'État. Pendant ce temps, le général reste campé sur son cheval, donc s'il y a une entreprise qui est prête à la prendre...
La bureaucratie, ça a du bon, parfois. Ça.
Je pense sincèrement que ça embête énormément et symboliquement les Espagnols de la retirer, mais personne n'ose le dire. Et pourtant, ça a été voté au Parlement espagnol. Je vais continuer sur la culture et les élections américaines.
Alors, c'est le même sujet, oui.
D'accord. Oui, c'est la même. La culture peut-il influencer le vote paradoxe d'une population en Europe? On imagine que oui, aux États-Unis, on imagine que non. Pourtant, le monde culturel américain n'a jamais été aussi mobilisé pour une élection américaine et tous dans le même sens contre la politique de Bush. Je crois que c'est la première fois dans un pays où de Hollywood aux écrivains de New York ou aux réalisateurs de spectacles de Broadway, on a décidé de voter pour John Kerry.
Sauf Bruce Willis,
mais Chuck Bruce Willis. Bruce Willis, il sauve l'Amérique en règle générale dans ses films. Par exemple, l'auteur américain James Moreau déclara il y a quelques jours à Nantes qu'il était, il est catastrophique de vivre dans un monde dirigé par un homme qui ne lit jamais. Ça, c'est, vous voyez, ce genre de belles phrases que les Européens adorent. Douglas Kennedy, c'est un auteur à succès, vient d'écrire sa rencontre avec le Sud religieux. Et comme Douglas Kennedy est un conteur au talent exceptionnel, d'après les Européens, cela donne un récit de voyage piquant, grinçant, glaçant aussi, le tableau édifiant d'un des phénomènes de société les plus frappants de ces dernières années. Je parlerai pas de Michael Moore, qui reçut une palme d'or, alors là on est dans le grotesque, pour un montage d'images d'archives, ou de Hollywood, qui dans leur grande majorité ont soutenu John Kerry. Avec tout ça, normalement, Bush aurait dû être battu. Mais voilà, il a gagné. Et depuis quelques semaines, on nous explique que c'est le vote de l'Amérique profonde, de l'Amérique religieuse, de l'Amérique réactionnaire, et que pour eux, la culture est inexistante, une sorte de retour de bâton. Tout cela se tient. Peuple d'imbéciles, vote d'imbéciles. Pourtant, la culture qui influencerait l'Amérique, elle existe. Elle se trouve à la télévision. Depuis maintenant tout juste 4 ans, juste le temps d'un mandat, une série américaine, 24 heures, qui est diffusée outre-Atlantique, est devenue un phénomène de société. Alors l'originalité de ce feuilleton est simple. On suit pendant 24 heures une équipe d'inspecteurs chargée des affaires à haut risque. Le feuilleton respecte l'unité de temps, c'est-à-dire que il y a 24 épisodes, Un épisode représente une heure d'enquête. Filmé caméra à l'épaule comme un reportage, les scènes sont d'une extrême violence et nos inspecteurs déjouent pour chaque saison une grande menace contre les États-Unis. Alors je vous donne les thèmes de chaque saison. Première saison, là on est juste au début du mandat de George Bush. Une tentative d'assassinat contre le candidat aux élections présidentielles.
Le premier candidat noir qui a une chance d'être président de la République.
Voilà.
Oui, non, il faut quand même préciser
déjà.
C'est quand même un phénomène
forcément
culturel.
Il est noir, autrement si il est blanc, ça aurait été un peu trop réactionnaire.
Grégoire Gambier trouve que l'axe Paris-Berlin-Moscou n'excite que trois étudiants de Sciences Po, maintenant il regarde la TV américaine.
Je crois qu'on s'est mal compris, mais ça ne m'étonne pas.
Alors la deuxième saison, effectivement, le candidat sauvé devient président. Et on découvre une menace terroriste et nucléaire sur le territoire américain. Et bien sûr, le principe reste le même. Il ne reste que 24 heures pour déjouer la menace. Donc tous les moyens sont permis, forcément. Le président est représenté comme un homme d'action qui sait prendre les bonnes décisions et rapidement. Normal, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a que 24 heures pour sauver les États-Unis. Vous me direz, c'est caricatural, le héros américain qui sauve le monde. Ben non. Cette fois-ci, le scénario est brillant. L'intensité due à l'unité de temps rend le suspense insoutenable et la réalisation excellente. Il suffit de monter d'un cran l'alerte terroriste tous les deux mois à New York et vous êtes persuadé que le FBI déjoue tous les jours une action terroriste. J'oubliais de vous dire que cette série passe sur la chaîne Fox TV, le même groupe que Fox News, le groupe de Rupert Murdoch. On peut considérer ce feuilleton comme de la propagande, pourtant quand c'est fait avec génie, et c'est le cas, on ne peut que s'incliner. Alors pour les inconditionnels des séries françaises, parce qu'il y en a qui vont me dire
encore
des séries
ou franco-russes,
je leur conseille de continuer de regarder Navarro et l'Incite, autrement ils peuvent acheter, et je pense que pour l'information et sur un plan artistique, ils peuvent acheter les deux premières saisons de 24 heures qui sont sorties en France. Et pour les nostalgiques, mais là cette fois-ci un peu plus sérieusement, je leur conseille, et sorti en DVD, la série que peut-être certains ont vu quand ils étaient jeunes, Chéri Bibi, d'après Gaston Leroux. Et si je la cite, c'est parce que simplement elle a été adaptée par la télé, par ADG, qui vient de nous quitter, voilà.
Donc, un clin d'œil à ADG, merci Patrick. T'avais pas que la troisième série de 24 heures, la troisième menace qu'il faut endiguer, c'est Poutine rencontre Chirac à l'ONU, les États-Unis ont 24 heures pour empêcher la poignée de main. Un coup de cœur, un coup de griffe, messieurs, au lieu de ricaner.
Oui, deux coups de cœur, moi, parce que je suis d'humeur joyeuse, contrairement à ce que les événements pourraient nous laisser supposer. Et donc, ce sont deux revues, puisque je ne fais pas que regarder, effectivement, les séries américaines bien faites. Je lis aussi Le Monde Diplomatique, c'est encore le goût du paradoxe. Et le dernier numéro du Monde Diplomatique, là, du mois de novembre, consacre son dossier aux mercenaires. Alors, je voulais saluer cette belle initiative, puisque, bon, évidemment, les mercenaires, via les sociétés militaires privées, les SMP qui interviennent massivement en Irak, sont dans l'air du temps, et c'est presque une mode maintenant dans les rédactions des journaux francophones, d'y aller de son petit couplet, un peu désuet, encore le goût de la nostalgie, ah oui, tous ces mercenaires qui sentaient bon le sable chaud au Katanga. Donc on revient un peu là-dessus.
En ce moment, hein.
Oui, oui, il y en a un paquet en Afrique aussi. Alors, ce coup de cœur, parce que bon, au-delà de, on connaît le monde diplomatique et son manichéisme militant, altermondialiste, bobo, bon. Mais cela donne une analyse assez intéressante du phénomène, avec bon, des informations plus ou moins partiales, mais surtout, ce que l'on retient de ce dossier très bien fait, donc dans le monde diplomatique du mois de novembre, c'est que la guerre normée, c'est-à-dire faite par des armées professionnelles, payées par des pouvoirs publics reconnus, n'a été qu'une parenthèse, voire un accident dans l'histoire des hommes, et particulièrement dans l'histoire européenne, et que ça correspond aux 4 siècles de la modernité, et que nous sommes en train de sortir de cette modernité par tous les moyens, pour le bien ou pour le pire, mais c'est en soi une bonne nouvelle.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de rebondir sur ce que vous disiez sur le retour du meurtre en politique et le retour des archaïsmes en politique ?
Je n'arrête pas de rebondir, je fais presque du surplace à force de rebondir, puisque je vais finir par une dernière pirouette, et là je rebondis, mais sur une émission il y a 10 mois peut-être, pour saluer le numéro de la nouvelle
nouvelle revue d'histoire. J'en profite puisque Dominique Vénère n'est pas là, donc je n'ai pas à rougir de parler de cette excellente revue devant lui. Donc c'est le numéro 15 de novembre-décembre 2004, au prix de 6 € dans tous les kiosques, et le dossier est consacré à empereurs et empires européens. Alors je n'ai pas besoin d'appuyer le clin d'œil pour trouver le thème et en plus les articles passionnants, et même avec un petit frisson qui nous parcourt lorsque l'on voit cette belle épopée de l'Europe.
Qui remonte loin, puisqu'il y a également un excellent article d'un jeune talent de la revue, donc Périclès et l'apogée d'Athènes, par Emma de Mester. C'est absolument passionnant d'érudition. Voilà.
Oui, mais c'est plus une théasocratie là, qui prépare presque les théasocraties anglo-saxonnes, l'Empire athénien.
Tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, son devis riche géopolitique, l'état de la théasocratie, l'Empire, tout ça.
Il est fâché, von Leerd, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai dit du mal de De Gaulle, mais pas tout à fait des souverainistes, mais on peut en dire du mal aussi, si vous voulez.
Très rapidement, de mon côté, la séquence BD, puisqu'il y a une micro-séquence dans chaque émission. Le deuxième tome des Sarcophages du Sixième Continent, l'aventure de Blake et Mortimer, vient de paraître aux éditions d'Argo. Donc, pour ceux qui aiment, ils seront comblés. Patrick PL, je crois que vous avez
la collection
vu ça également.
J'ai la collection complète. Juste pour informer les Nantais, enfin les gens qui vont à Nantes, il y a une exposition sur la science-fiction et les planches originales de cette BD sont exposées pendant plus de 2 ou 3 semaines. Donc si vous voulez voir vraiment les planches originales, c'est à Nantes, un festival de science-fiction remarquable. Voilà.
Merci Xavier Van Leerd, vous avez fait quelque chose, vous, d'un peu culturel depuis le mois dernier ?
Oui, j'ai même eu 2 coups de cœur.
Mais dis donc, c'est la fête du coup de cœur ce soir. Hein.
Voilà, ouais. C'est la fête du coup de cœur et à mon tour, je vais rebondir.
C'est la fête du coup de cœur et
on rebondit autour de cette table.
Rebondir, mais alors vraiment franchement vers le passé, en écoutant Patrick Pell nous parler de l'émission, enfin de 24 heures, c'est pas une émission, c'est un feuilleton. Le feuilleton 24 heures et des liens entre Hollywood, les productions cinématographiques et la politique aux États-Unis. Eh bien, je pensais à ce DVD qui vient de sortir, qui est la réédition de La naissance d'une nation de Griffith, film fondateur d'une certaine Amérique et aussi de l'art cinématographique, et qui n'était jusqu'ici pas disponible en DVD, mais qui l'est désormais aux éditions L'Odyssée du cinéma pour 10 €. C'est un très beau film édifiant.
Oui, bah, vous auriez
conseille à tous nos auditeurs.
Vous auriez pu parler, Xavier Van Leerd, d'une autre sortie DVD qui touchera particulièrement les auditeurs des Chroniques de la Vieille Europe, puisque c'est Le Bateau, en titre original Das Boot, dont nous avons repris le générique, enfin le thème musical comme générique de notre émission. Et donc on rappelle que c'est un excellent film qui est l'un des premiers, en tout cas au début des années 80, un film allemand mais à gros budget, qui était donc l'un des premiers à retranscrire côté allemand, donc côté européen, ce conflit qui a été donc la Seconde Guerre mondiale.
Par contre, que certains auditeurs qui ont été fans de ce film attendent un peu, il y aura une version télé, c'est-à-dire il y a une version qui a été feuilleton, qui va durer beaucoup plus longtemps, où vous aurez exactement toute l'odyssée de ce sous-marin.
Vous aviez un deuxième coup de cœur, Xavier Van Leerd, et puis après on redonnera la parole à Patrick.
Beaucoup plus léger. J'ai beaucoup aimé le dernier roman de Benoît Dutertre. Benoît Dutertre vient donc de signer un roman qui s'appelle La Rebelle, qui est un roman drôle dans lequel il poursuit la veine du précédent qui s'appelait Service Clientèle. La veine, le filon qu'il exploite mais avec talent, c'est celui des désillusions des consommateurs ou des promoteurs de la fameuse société de la communication et de l'information. La Rebelle, en l'occurrence, c'est une sorte de passionnariat cathodique qui tous les soirs fait la leçon aux téléspectateurs sur les valeurs qu'ils doivent cultiver, les comportements politiquement corrects qu'ils doivent adopter. Tout ça, bien sûr, est parfaitement hypocrite. C'est décrit avec beaucoup de drôlerie. Pour prendre une comparaison qui est celle de ma région d'origine, on peut dire que Dutertre est une sorte de Till Spiegel des temps modernes, qui nous venge par ses facéties de la nouvelle inquisition, non pas catholique cette fois, mais cathodique.
Merci. Alors, Patrick.
Alors moi, je vous amène à Nantes à l'occasion de l'année du centenaire de Jules Verne.
La maison d'édition Actes Sud et la ville de Nantes sont associés, et je trouve que c'est une excellente idée, pour coéditer 10 titres méconnus de Jules Verne. On retrouvera un roman original qui est, à mon avis, peu connu, mais enfin, à mon avis, certaines personnes de Radio Courtoisie ont dû le lire, mais en tout cas, il n'avait pas été réédité. Le titre, Sans dessus dessous. Alors, ce roman raconte comment les Américains font basculer l'axe de la Terre pour exploiter les richesses du pôle Nord. Depuis, les Américains ont trouvé une autre solution, c'est polluer un maximum et le pôle Nord se réchauffera tout seul. Ce roman ne sortira qu'en février 2005, avec 10 autres romans méconnus, mais c'est à mon avis l'occasion de redécouvrir cet immense écrivain. En même temps, pour ce centenaire, Le Monde illustré de Jules Verne, un album présentant une sélection des gravures d'époque qui ornaient les ouvrages parus aux éditions Hatzel. C'est magnifique, ces grandes gravures de Jules Verne, et donc elles sont toutes réunies dans un seul livre.
Ok, après Jules Verne, autre
peinture. Si vous avez la chance d'aller à Londres.
On parle pas de musique ce mois-ci ? C'était bien la dernière fois.
Non, pas de musique cette fois-ci. Si vous êtes à Londres, il faut aller vous précipiter pour aller voir l'exposition François Boucher. Alors c'est incroyable parce que c'est un peintre français du 18e. Boucher, il est français, Jean-Philippe. Personne a décidé en France de faire d'exposition de ce grand peintre du 18e. Peintre modeste qui avait déjà inventé le porno chic, représentation de l'aristocratie dans toute sa décadence. Mm-hmm. Voici un vrai provocateur, cette fois-ci, le peintre attitré de la première puissance du monde, qui était la France. Sa futilité risque aujourd'hui de choquer par ses corps nus et ses peaux blanches. Malheureusement pour la France, cette collection unique au monde est purement anglaise, achetée pendant la Révolution, je n'irai rien là-dessus. Achetée pendant la Révolution par un marquis pour une bouchée de pain, elle ne pourra quitter le sol anglais selon les vœux des héritiers. C'est-à-dire que ces tableaux n'auront pas le droit de venir en France. Donc si vous êtes à Londres, c'est à l'hôtel particulier Wallace Collection, et c'est jusqu'au mois d'avril 2005.
Merci Patrick. À noter également une sortie en littérature historique. Alors je vais en parler très peu parce que je voulais l'acheter et puis je l'ai pas acheté, donc je l'ai pas lu non plus.
Bon, manque de temps, oui.
Parce que c'est la biographie de Frédéric II par Jean-Paul Bled chez Fayard. Et alors ça fait du bien de lire une biographie de Frédéric II de temps en temps. Il y en a eu de très bonnes.
Par Jean-Paul Bled.
Non, lui c'est sa première. je pense qu'il va en faire qu'une. Donc chez Fayard dans cette collection des biographies. Donc Jean-Paul Bled que nos auditeurs connaissent bien.
Un coup de gueule.
Ah oui.
Ça va être rapide.
On a soif. Je me suis fait avoir. J'ai acheté un nouveau livre sur Céline. Le titre était éloquent. Céline et le grand mensonge, signé par André Rossel Kirchen. Je pensais qu'il allait avoir des révélations. Enfin, nous allons savoir tout sur Céline. Alors, Monsieur André Rossel Kirchen découvre que Céline a menti. Déjà un peu étrange, un écrivain qui ment. Et pourquoi il a menti ? Car sa seule motivation était l'argent. Ce qui permet d'expliquer, d'après l'auteur, la légende et la réussite de Louis-Ferdinand Céline. Donc je vous propose de mentir et d'accumuler de l'argent, et normalement vous devriez pouvoir écrire la suite du voyage au bout de la nuit. Merci Monsieur André Rossel Kirchen pour cette analyse fort brillante. Ce livre n'a pas été écrit à compte d'auteur. Les éditions Mille et Une Nuits ont le courage de l'éditer. C'est une imbécilité littéraire. Voilà.
Oui, Gaëlle Van Lien, très rapidement. On est en train de...
Non, une imbécilité littéraire qui, elle, bien sûr, n'est pas du tout motivée par des arrière-pensées d'aucune sorte. Non.
Merci Patrick PL, merci Gaëlle Van Lien, merci Grégoire Gambier, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. Bonne soirée à tous et au mois prochain. Au revoir.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen, sur 100,6, à Chartres, sur 104,5, à Cherbourg, sur 87,8, au Havre, sur 101,1, au Mans, sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 novembre 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.